Hiring for your small business? If you're not looking for professionals on LinkedIn, you're looking in the wrong place. That's like looking for your car keys in a fish tank. LinkedIn helps you hire professionals you can't find anywhere else, even those who aren't actively searching for a new job but might be open to the perfect role. In a given month, over 70% of LinkedIn users don't even visit other leading job sites. So start looking in the right place. With LinkedIn, you can hire professionals like a professional. Post your free job on linkedin.com/people today.
Bienvenue dans le podcast Culture PSG du lundi 23 août 2021. Nous sommes de retour après une petite semaine de vacances, on va pas mentir. Nous allons revenir ce soir sur le match de vendredi dernier déjà contre Brest, la victoire 4-2, puisqu'il y a eu pas mal de choses à noter, à souligner. On reviendra probablement de façon indirecte sur les matchs précédents à Troyes et contre Strasbourg, puisqu'il y a quand même pas mal d'innovations. D'une rencontre à l'autre. Je pense que ça sera le seul thème du podcast. On verra combien de temps ça dure. Peut-être on fera un petit point mercato. On verra. Honnêtement, c'était pas au programme au départ. On verra selon la durée, quelle heure on finit, tout ça. Mais bon, nous sommes quatre malgré tout ce soir, comme d'habitude. Nous avons normalement Mathieu qui est là. Bonsoir Mathieu.
Salut à tous.
Voilà, nous avons l'ami Simon qui a fui Twitter mais qui n'a pas fui le podcast.
Salut les amis, bonsoir à tous.
Et nous avons Omar le Sage depuis ses vacances.
Bonsoir à tous.
Voilà, bonsoir à tous sur le live. Il y a des gens qui sont très contents de retrouver, mais de même. Mais François avait assumé l'intermède pendant mes vacances sur Lionel Messi. Bon, c'est moi d'ailleurs qui vous avais fait planter le podcast au début et à la fin, mais vous inquiétez pas, c'est bon, je suis de retour désormais. On n'est pas encore passé sur Twitch parce que j'ai plus le temps de regarder, je reviens à peine de vacances moi aussi, et donc on verra dans les prochains jours. Sur ce, on va attaquer le bout du match sur ce désormais fameux Brest-PSG de la troisième journée de Ligue 1. Je vais vous rappeler le scénario du match et les buteurs pour commencer. Si le site de la Ligue veut bien charger, voilà. Ouverture du score de Ander Herrera à la 23e. Kylian Mbappé qui double la mise de la tête à la 36e. Franck Honora qui réduit le score après une talonnade géniale de Romain Fèvre. Le PSG reprend deux buts d'avance par Idrissa Gueye à la 73e d'une superbe frappe de loin. Steve Mounier ramène une nouvelle fois les Brestois à un but d'écart à la 85e. Et enfin, André Di Maria, tout juste entré en jeu, a clôturé la marque à la 90e d'un splendide lob sur une jolie contre-attaque parisienne. Je pense que le premier bout du match de la saison de Ligue 1 2021-2022 va être pour moi, donc je vais y aller. Comment vous dire, c'était déjà un match, je trouve, de bonne qualité. Je trouve que le retour du public dans les stades booste les acteurs de Ligue 1 de façon, ma foi, assez exceptionnelle. J'avais déjà pas mal aimé ce qu'avait proposé Strasbourg, notamment, il y a une semaine auparavant, avec le duo à York-Gamero en termes d'attaque. Bon, la première mi-temps, ils n'avaient pas été bons, mais ensuite, ils avaient été pas mal. Là, je trouve que Brest s'est bien battu jusqu'au bout. Ils y ont cru, ils sont revenus quand même deux fois au score, c'est pas rien. Vraiment une bonne rencontre de Ligue 1 en général. Donc ça, vraiment, c'est quelque chose à noter, parce que parfois, au mois d'août, on a eu des purges monumentales. Et au cours de l'année, on n'avait pas vu Brest bousculer trop le PSG ces dernières saisons non plus. Si vous reprenez le match de mai dernier, par exemple, en termes de niveau de jeu, c'était bien inférieur à ça, si on veut comparer. Donc, il faut dire, le niveau général était assez sympa. Sur live, on me dit le meilleur match de la saison pour le moment. J'avoue que je ne les ai pas tous vus. Enfin, je n'ai pas vu trois, notamment, donc je ne saurais pas le dire. Mais en tout cas, c'était vraiment pas mal des deux côtés. Concernant la rencontre parisienne, je trouve qu'on a fait... on a encore pris deux buts et Navas a fait un gros arrêt. Donc, en termes d'expected goals, par exemple, on est pratiquement au niveau de Brest. Donc, on ne peut pas dire qu'on a archi-dominé la rencontre non plus. En tout cas, on a été mis en difficulté de façon régulière. Mais malgré tout, j'ai bien aimé ce qui a été proposé, notamment en première mi-temps, avec ce 4-4-2 en losange qui a forcément engendré une possession de balle parfois un peu lente, un peu trop mesurée, un peu trop prudente. Mais malgré tout, je trouve que la première mi-temps était assez agréable. On marque des buts qui sont loin d'être immérités, même si ce n'est pas forcément sur les actions qui étaient les plus chaudes, on va dire. Mais une première mi-temps bien gérée. Après, c'est dommage de prendre ce but juste avant la pause, tout comme c'est dommage de faire n'importe quoi et de prendre le deuxième but brestois. Voilà. Mais bon, la deuxième mi-temps est plus équilibrée. Brest arrive à nous faire mal sur les côtés. Mais pour conclure un peu, je trouve que vu les absents, vu la préparation qu'on a eue, etc., c'était globalement une rencontre de belle qualité, même de bonne qualité. Je trouve que J'ai pas compris les commentaires très négatifs, même sur Pochettino après le match. Alors certes, il a encore beaucoup, beaucoup, beaucoup tardé dans son coaching, mais je trouve que son équipe avance dans le bon sens. J'avais été très dubitatif sur ce qu'il avait tenté de proposer contre Lille au Trophée des Champions. J'avais pas tout compris de ce qu'il avait voulu faire contre Strasbourg non plus. Autant, je trouve qu'il y a une vraie logique et de bonnes choses sur cette rencontre à Brest qui me paraît être un pas en avant dans la saison, vraiment. Plus que Strasbourg. Donc voilà un peu mon pouls du match, plutôt positif, malgré les buts encaissés et les difficultés défensives. Et non, je n'aurais pas un mot pour Ludivine Payet, qui figure sur le cou de son mari à l'issue d'un superbe tatouage que je décommande à tout le monde. Mathieu, Omar, Simon, pour compléter un peu ce pouls du match, bah Mathieu, bon, on ne va pas changer les bonnes habitudes, hein. On reprend les bases.
Nouvelle saison et mêmes automatismes. Non, mais après, sur le plan tactique, c'est intéressant parce que Pochettino a changé des choses sur ce match-là. Je pense que c'est en réaction à ce qu'on avait vu la semaine précédente face à Strasbourg, où pour le coup, on s'était fait régulièrement ouvrir sur les contre-attaques, mais sur les côtés aussi. On avait concédé beaucoup de situations, on avait perdu le contrôle du match pendant plusieurs dizaines de minutes, notamment en début de deuxième période. Pochettino a un peu modifié son approche, il a retiré un attaquant et il a rajouté un milieu pour passer en losange. Et donc Herrera et Wijnaldum étaient toujours là par rapport à la semaine dernière. Et les deux milieux qui rentrent, c'est Gay et Verratti, donc deux joueurs avec beaucoup de volume. Et tu rajoutes à Verratti qui touche aussi énormément de ballons, est capable aussi d'étirer les phases de possession. Et ça s'est d'emblée vu sur l'approche du PSG, directement dans le camp adverse, avec des longues phases de préparation. Une possession qui est montée jusqu'à 75%, il me semble.
Oui, c'est ça. Oui.
Bah, d'ailleurs, c'était la possession sur la première période, 74%. Ça résume un peu l'approche du PSG, avec un milieu très travailleur et aussi capable de toucher beaucoup, beaucoup de ballons face à une équipe de Brest qui, pour le coup, c'est la première équipe de ce début de saison en Ligue 1 qui ne nous attendait pas à 5 derrière, mais malgré tout qui proposait une grosse densité défensive. On connaît, hein, les équipes de Dar Zakarian sont extrêmement bien préparées à ce niveau-là. Et du coup, le match de vendredi plutôt ne dérogeait pas à cette règle-là. Mais malgré ça, malgré ce bloc bas qui t'attendait et le retrait d'un attaquant par rapport aux autres sorties, on a quand même créé pas mal de situations, hein, même sur attaque placée, notamment la première du match. C'est une situation très bien amenée avec une passe d'Herrera pour Mbappé qui réussit pas à concrétiser alors qu'il se trouve à bout portant. On a aussi évidemment une grosse situation avec Verratti qui cadre pas là aussi à bout portant. Il y a une autre occasion à 0-0, il me semble, avec Icardi qui, sur un cadeau de la défense brestoise, sur un pressing parisien, qui n'arrive pas à toucher la balle alors qu'il était face au gardien et en bonne position pour marquer. Il est un peu surpris avec le ballon qui lui arrive. Et c'est un peu paradoxal qu'on marque sur une action assez peu typique, en fait, d'une frappe de loin d'Herrera, qu'on le voit assez rarement faire. Et c'est comme ça qu'on prend l'avantage. Et le deuxième but aussi, assez paradoxal avec la tête de Mbappé. Et globalement, les 40 premières minutes, on va dire, jusqu'au but de Brest, sont très maîtrisées de la part du PSG. Ouais, beaucoup, beaucoup de situations, et surtout beaucoup de domination et de maîtrise dans le camp adverse. Donc ça m'a marqué une vraie progression par rapport au match précédent. Bon, il y a cette erreur, cette contre-attaque qu'on se prend sur la paire de balles de Mbappé. C'est pas la première fois que ce genre de situation arrive. Même je pense qu'on peut retrouver quasiment un but par saison depuis l'arrivée d'Mbappé, où on se prend un but comme ça sur une contre-attaque de ses paires de balles après un décrochage.
Bah, la dernière, pour ceux qui ne s'en rappellent pas, c'était contre Nantes au Parc, par exemple. Ouais,
exact. Mais on peut même citer face à Liverpool, la première saison de Tourelle, l'un des premiers matchs de Tourelle aussi.
Oui, c'est ça. Oui.
À Anfield, on se prend un but aussi un peu pareil. Donc bon, c'est une des situations qui arrivent et on se prend le but. Le début de deuxième période va être un peu comme le début de deuxième période face à Troyes, j'ai trouvé. C'est-à-dire que tu avais le ballon, mais tu étais un peu dans un entre-deux. Tu crées moins de situations, moins de dangers. Brest, c'était pas forcément super dangereux, mais bon, tu sentais que voilà, sur du jeu direct, sur du jeu vertical sur les côtés, ça pouvait te mettre en danger. Il y a ce but du 3-1 de Gay qui arrive un peu comme un cheveu sur la soupe. Il n'est pas forcément attendu et c'est une super frappe, mais là encore, bon, un petit cadeau du gardien, mais pas forcément un but construit et concrétisé forcément une période où PSG pousse. Et après ça, bah là, tu vas avoir encore plus de soucis parce que tu vas avoir 20 minutes où Brest va jouer son va-tout, notamment en passant sur leur côté droit et de notre côté gauche, en ciblant Diallo, en y allant très fortement avec Pierre Gabriel et surtout Honora. et en se créant des situations là-dessus. Donc ils ont une grosse situation où que Navas repousse à 3-1, puis ils reviennent à 3-2. Enfin, on arrive à liquider le match à toute fin sur une contre-attaque. Mais c'est dommage de se retrouver dans une position où on risque de ne pas gagner le match alors que le début de celui-ci paraissait complètement plié et allait dans une seule direction. Donc c'est peut-être ça un peu le regret qu'on peut avoir, c'est qu'on n'est pas encore capable de proposer 90 minutes de vraie continuité. Après, sur les enseignements qu'il faudra en tirer, on en débattra, mais à partir du moment où on va récupérer des joueurs qui conditionnent tellement l'équipe comme Messi, comme Neymar, je ne sais pas dans quelle mesure on peut vraiment partir de ce match-là comme point de départ et de dire que c'est un premier pas dans une construction d'équipe. Je ne sais pas si on reverra beaucoup cette situation avec 4 milieux de terrain, du moins si on garde nos attaquants dans l'effectif.
D'accord, ouais, ça on va en parler justement. Simon ou Omar, bon, je pense qu'on a un peu fait le tour sur un peu la physionomie de la rencontre. Effectivement, Mathieu a raison d'insister sur les regrets qu'on peut avoir concernant le fait de se mettre deux fois sous la menace d'un match nul, hein, parce que le PSG a globalement mené à 70% du temps. Mais c'est dommage de s'être retrouvé deux fois où tu fais le break, et bam, t'en prends un juste ensuite. Mais sur un peu l'évolution tactique que Pochettino a mis en place, ce 4-4-2 en losange, tu veux en parler? Tu l'expliques comment? Comme Mathieu, tu penses que c'est une réponse aux difficultés vues la semaine dernière?
Je pense surtout que Pochettino reprend un peu le fil de ce qu'il avait tenté de faire en arrivant d'abord au PSG, c'est-à-dire de laisser beaucoup de liberté aux joueurs, de laisser vraiment la capacité à ces joueurs de se déplacer comme ils en ont envie. Sauf que là, ça s'est concrétisé d'une manière différente parce que on a parlé du 4-4 de losange, mais c'était pas du tout un 4-4 de losange type jeu de position. C'est-à-dire que là, le PSG avait un losange un peu libre, où ça venait constamment surcharger côté ballon avec énormément de joueurs. Et vu que Brest défendait dans une sorte de 4-4-2, avec la volonté plus ou moins claire de faire bloc, de garder une structure et de défendre en zone, je pense que eux, ils voulaient rester organisés comme ça, et que le PSG a vraiment semé la zizanie avec son organisation, ou plutôt parfois même son manque d'organisation. C'est-à-dire que Brest, à mon avis, n'avait pas envie de défendre en courant partout, en mettant des taquets ou en provoquant des duels. D'ailleurs, en première mi-temps, on a 75% de possession. Et Brest ne fait que trois fautes. N'ont fait que trois fautes. Pourquoi? Eh bien, tout simplement parce qu'ils avaient prévu de défendre d'une manière assez passive. Sauf qu'au final, comme le PSG a mis tellement de densité avec du monde côté ballon, les joueurs proches les uns des autres, et beaucoup de liberté, notamment avec les attaquants qui soit pesaient très très haut pour gêner en profondeur avec Icardi, Wijnaldum ou Mbappé qui servaient constamment d'appât pour la ligne défensive et du coup les empêchaient de sortir et des milieux qui étaient un peu dépassés, ne serait-ce qu'au niveau numérique. Parce que Brest avait un double pivot dans l'axe et le PSG avait toujours 2, 3, 4, 5 joueurs autour d'eux, parfois en évoluant vraiment de manière très excentrée avec Verratti proche de la ligne de touche, voire Herrera proche de la ligne de touche aussi. Et du coup, Brest n'a pas défendu comme ils avaient prévu, à mon avis. Et ils se sont un peu laissés désorganiser comme ça au fil des minutes. Et ils ont perdu leur structure un nombre de fois vraiment très important. Et du coup, le PSG profitait de trous béants, pas seulement à l'opposé, mais aussi dans l'axe du terrain. On a vu souvent Gueye, Verratti, Herrera ou d'autres, plein axe à 30 mètres du but, et à se retrouver totalement libre face au jeu parce que l'équipe adverse avait été fixée sur le côté. Et au final, Brest avait ni la structure défensive, parce qu'il la perdait à cause de notre possession comme ça, très très resserrée, très très dense, ni l'agressivité sur le porteur, parce que je pense que c'était pas leur plan de jeu d'avoir un niveau d'agressivité et une orientation individuelle trop marquée. Du coup, ils sont un peu fait concasser comme ça, et le PSG les a eus à sa main une très très grande partie du match, hein. Surtout qu'on a mis de la vitesse dans les enchaînements, les passes étaient bien appuyées, ça a joué en une touche, il y a eu du mouvement autour du porteur.
Peu de pertes de
Très
balles au milieu
souvent.
aussi.
Comment?
Peu de pertes de balles au milieu aussi.
Ouais, c'est vrai, quelques-unes malgré tout, parce que forcément, tu peux pas tout réussir dans la densité. Ça représente quand même un défi au niveau technique. Donc forcément, des fois, Gueye s'en mêle un peu les pinceaux, ou Herrera fait des passes un peu trop appuyées. Mais dans l'ensemble, ça a plutôt bien tenu le ballon, ça a bien joué dans le contre-pied de la défense. On n'a jamais été prévisible dans les mouvements, j'ai trouvé. Du coup, Brest avait souvent un petit temps de retard à chaque fois, et ils ont vite perdu leur structure, hein, et ce qui fait que le PSG a pu attaquer finalement en créant pas mal de trous dans le bloc adverse, et ce qui a compliqué la tâche de Brest pour gérer les transitions. D'ailleurs, les deux premiers buts viennent de situations où Brest est absolument incapable de gérer à la récupération du ballon, ce qui donne un mouvement où, qui finit avec tout le monde côté gauche sauf Hakimi, mais qui est même pas très excentré, hein, qui est plutôt dans la partie axiale du terrain où Brest ne doit dégager un peu en catastrophe. C'est Herrera qui reprend d'une belle frappe. Et le deuxième but, c'est un peu pareil, transition très mal gérée où Brest est trop désorganisé pour assumer cette situation. Et c'est Mbappé qui arrive à mettre la tête. Donc on dit souvent que sur une phase de possession, il faut être grand, c'est-à-dire que l'équipe doit occuper beaucoup d'espace, qu'il faut avoir un certain écart entre les joueurs, mais c'est que partiellement vrai. En tout cas, il y a une autre voie qui est possible. Tu peux aussi mettre beaucoup de densité entre tes joueurs avec le ballon, les garder proches les uns des autres. Et ça, c'est pas la voie du jeu de position traditionnel qu'on voit actuellement, hein, qui est même plutôt orthodoxe, hein, avec Guardiola ou Tourelle. C'est plus la voie de Ten Hag à l'Ajax d'Amsterdam. C'est ce qu'on voit aussi avec Gasperini à l'Atalanta, de mettre vraiment beaucoup de densité près des lignes de touche et de relever le défi technique. Et je pense que le PSG est capable de relever ce défi-là. Et si tu es capable de sortir un match pareil, alors c'est que Brest, ils ont fini 17e l'année dernière, c'est pas la plus grosse armada qu'on va trouver en Ligue 1. Mais si tu es capable de relever ce défi-là, pardon, avec des joueurs qui ne sont pas les plus affûtés techniquement de l'équipe, je pense que ça peut inaugurer de certaines belles choses une fois que t'as Di Maria titulaire, Neymar, Messi, Paredes et les autres, quoi. Donc moi, j'ai été très très content de la prestation de l'équipe avec ballon. Forcément, il y a eu un peu de raffus sur certains contres, mais bon, j'ai envie de dire que ça, on n'y échappera pas. Peu importe la manière dont on joue, je pense que toutes les équipes auront un peu le couteau entre les dents sur les transitions. Surtout, bon, on connaît le profil de beaucoup d'équipes de Ligue 1, mais malgré tout, j'ai été très convaincu de ce que j'ai vu et je pense que Pochettino commence à tenir une formule, je sais pas, mais il tient quelque chose en tout cas.
D'accord. Donc ouais, t'as la façon dont le PSG a attaqué, notamment t'as plus, Simon, si je dois résumer.
Tout à fait.
Plus que dernièrement, en tout cas.
Plus que les matchs d'avant, effectivement, même si je trouvais pas ça infamant non plus.
Non, le match contre Strasbourg, il y a du bon aussi, par exemple. Il y a eu des gros trous, mais je trouve qu'il y avait du bon dedans quand même. Qu'est-ce que je voulais dire ? Omar, j'imagine tu es sur la même lignée que Simon, tu as beaucoup apprécié, si j'ai bien compris, la mise en place du dispositif de Pochettino et un peu le rendu, non ?
Oh oui, déjà parce que c'est un système qui me tient énormément à cœur à titre personnel, j'ai envie de dire. Et puis en plus, même dans son activation et sa réalisation, notamment en première période et lors de la première demi-heure, il y a eu beaucoup, beaucoup de choses très intéressantes. Alors Simon a beaucoup parlé en effet de la densité que te permettait d'avoir un losange. C'est clair et net que avoir ce losange-là qui n'est pas du tout positionnel, mais qui permet notamment à Wijnaldum, pardon, de se projeter comme troisième attaquant, de Mbappé également d'être plus proche du cœur du jeu pour pouvoir trouver un ailier, un latéral plutôt large qui est souvent Hakimi, ça permet de mettre un nombre très 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 conséquent dans le camp adverse. Et moi, ça, c'est quelque chose qui me parle. Et cette récurrence que l'on a pu voir souvent avec une action qui s'est pas mal répétée entre Mbappé qui décroche dans le cœur du jeu pour trouver Wijnaldum en appui avec Herrera qui va trouver Hakimi lancé, c'est vraiment des espèces de choses mécanisées qui ont vraiment fait mouche dans le cœur du jeu brestois, où du coup ils étaient en sous-nombre, et c'est quelque chose qui a fait beaucoup 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 de différence. Je pense que c'est une situation qui a été renouvelée au moins 4 fois, notamment rien que dans la première demi-heure. Donc déjà, l'aspect avec ballon, ça a vraiment été très maîtrisé. C'est pas quelque chose qui est très récurrent sous Pochettino depuis quelques mois, où vraiment ça a été beaucoup marqué par des rushs offensifs et une qualité de transition qui était tout à fait discutable, on dira. Mais là, le fait que Paris ait mis le pied sur le ballon, bien qu'ayant Ganagay en point de base de ton milieu, je crois qu'il avait touché plus de 40 ballons en moins de 10 minutes. Donc c'est dire s'il y avait la maîtrise, s'il y avait la mainmise et s'il y avait un parti pris clair du PSG à ce niveau-là, du moins sur la première période. Après, il y a un nombre incalculable de situations qui ne s'achèvent pas. C'est bien dommage parce que tu remets Brest dans le match avec très peu. Et là, c'est là où est l'écueil un petit peu du losange, parce que tu surpeuples ton milieu, mais derrière, sur les couloirs, bah, tu es obligé de faire une confiance aveugle à tes joueurs de côté, parce que tu les amènes à jouer des 1 contre 1 ou des 1 contre 2. Et là, on a pu voir un certain nombre de soucis d'alignement. Il y a eu beaucoup de crispation et beaucoup de fixation de l'opinion sur ce qui s'est passé sur notre côté gauche en fin de match. Mais très clairement, dès le autour du quart d'heure de jeu, on avait déjà, et là pour le coup c'était de l'autre côté, du côté d'Hakimi, des problèmes d'alignement avec des compensations d'Ender qui se faisaient pas ou mal, ou plutôt qui pouvaient pas se faire parce qu'il y avait trop de distance à couvrir. Et là on a un peu perdu la structure. Donc c'est un peu l'écueil de cette animation en losange. Mais honnêtement, avec ballon et dans la capacité à peupler la surface avec 3 à 4 joueurs, avoir des joueurs lancés au large, on a vu vraiment des choses hyper intéressantes. Et ça, clairement, c'est à mettre au crédit de Pochettino, parce que ben, cette liberté positionnelle et le mouvement perpétuel qui a été accolé, ça a été une vraie réussite offensive. Hein. Non pas que je dise que ça a été une farandole, mais en tout cas, il y a quelque chose de très marqué, de très marquant dans ce qui a été fait dans cette première période.
Bah, l'action première mi-temps à 0-0 avec Wijnaldum en appui, la passe d'Herrera pour Mbappé comme ça dans le dos de la défense, tout à une deux touches de balle en contrôle passe, c'est des genres d'action que tu vois assez rarement au final avec le PSG où les joueurs gardent assez souvent le ballon. Là c'était assez fluide et on a eu plusieurs fois ce type de redoublement de passe au milieu de terrain avec des joueurs trouvés en appui, souvent Wijnaldum aussi comme ça un peu de dos au jeu qui remettait pour trouver un troisième joueur lancé. Ça, c'était assez intéressant. Après, sur l'animation défensive, c'est pas la première fois qu'on voit un losange en défense côté parisien, cette saison, j'entends. Parce que le début de la deuxième période, face à 3, on était comme ça aussi, avec Wijnaldum en 10, ou bien peut-être Draxler en 10, enfin l'un des deux. Et bon, ça n'avait pas tenu beaucoup. Au final, on était repassé en 4-3-3, un peu plus clair, puis en 4-4-2 aussi vers la fin du match pour blinder les couloirs, parce qu'on avait des problèmes pour notamment arriver à temps sur les pistons de 3 à ce moment-là. Là, c'était un peu différent avec le match face à Brest, parce que déjà, il n'y avait pas vraiment de pistons. Les joueurs offensifs partaient peut-être aussi de positions plus avancées, bien soit de positions plus basses pour les latéraux, soit de positions plus avancées pour les ailiers, notamment Honora. Mais après, bon, je pense que les déséquilibres, tu les as pas tant vu que ça en première période. Il y a peut-être une action où Diallo se fait prendre dans son dos par Honora aussi. Mais c'est, je pense, plus une attaque placée de Brest, ou du moins pas une vraie transition. Il y a eu le temps de faire plusieurs passes, quoi. Bon. Globalement, Paris avait réussi à contrôler toutes ces situations, du moins sur une bonne première partie du match. Après, c'est vrai que sur la deuxième partie, plutôt la dernière partie, sur les 20 dernières minutes, c'était plus rocambolesque. On a toujours du mal à gérer, hein, le jeu direct, le jeu vertical adverse, probablement parce qu'on n'est pas capable de presser de façon cohérente et constante sur la durée du match, ce qui fait que tu laisses des munitions à l'adversaire pour lancer des actions. Et globalement, l'adversaire arrive à trouver des situations dans les couloirs, parce que bon, si tu joues en losange, évidemment, par le système, tu les as libres. Si tu joues plus en 4-3-3 comme on a l'habitude, ou en 4-2-3, généralement, tu as des joueurs qui se replient pas forcément sur les couloirs, et c'est comme ça que les décalages se font. Donc forcément, c'est des défauts qui sont endémiques ou constants, mais dont on peut penser qu'on ne les résoudra pas de façon claire et définitive sur l'ensemble de la saison. Il faudra vivre avec ces risques-là et se concentrer un peu sur la partie offensive. Mais de toute façon, c'est quelque chose qui a été dit et redit par Pochettino, même Gay, dans leur déclaration d'après-match. Pour eux, pour éviter les transitions, pour éviter d'être pris défensivement, c'est d'améliorer leur phase offensive à eux, c'est-à-dire de ne pas perdre les ballons bêtement, de ne pas les perdre dans les premières situations de lancement d'attaque. Et tu regardes les deux buts qu'on prend, c'est des buts qu'on prend alors que l'équipe n'est pas encore installée dans le camp adverse. C'est deux décrochages de Mbappé puis Icardi qui sont pas forcément maîtrisés, ils perdent le ballon et ensuite ça peut partir assez vite en 2-3 passes vers notre but. Dans des situations où l'équipe n'est pas clairement mais bien installée dans le camp adverse et prête à presser. Donc il y a sans doute un peu plus de discipline à trouver, probablement qu'un joueur comme Messi te donne un peu plus de sécurité dans la capacité à tenir haut le ballon sans faire n'importe quoi, sans te précipiter, sans forcer des transitions, quitte à parfois mettre ton équipe en danger de déséquilibre, ce qui a parfois été le cas quand tu as Mbappé, quand tu as Neymar, quand tu as ce genre de joueur. Ont rapidement tendance à faire que l'équipe se coupe un peu. Messi peut faire ce lien et cette connexion entre les différentes phases de l'équipe et te permettre de vivre un peu plus longtemps dans le camp adverse et de façon un peu plus construite pour éviter ces contre-attaques. Mais ça sera l'un des enjeux du PSG dans cette construction d'une nouvelle équipe dans les semaines à venir pour éviter que, voilà, tu sais que tu vas aligner beaucoup de joueurs offensifs, mais l'idée sera quand même d'éviter au maximum que devoir courir vers ton but des dizaines de fois par match. Ça reste quelque chose à éviter.
Ah oui, ça reste la base, c'est d'éviter. Enfin, globalement, le PSG n'est pas une équipe qui sait très très bien défendre en courant vers son but. Concernant la partie avec ballon, sur là, il y a une personne qui nous dit qu'il a trouvé le jeu lent, avec quasiment aucun jeu en une touche, peut-être trop de possession, tout ça. Mais on est d'accord, pour moi, c'est un peu plus la conséquence comment dirais-je, d'une façon de jouer où tu veux pas prendre de risques dans ta possession, tu préfères assurer. Parce que tu es encore en phase d'apprentissage du système, notamment, plutôt qu'une réelle volonté ou une incapacité à jouer plus vite, non? Après, peut-être c'est vrai que des joueurs comme Herrera ou Gueye, qui peuvent parfois être un peu limités techniquement, te forcent à ça. Je sais pas comment vous l'interprétez.
Je ne suis
Moi,
pas
je, moi, je
d'accord avec
partage pas.
cette remarque,
Ouais.
perso.
Pareil, je ne partage pas forcément cette opinion parce que si on prend justement le cas d'Herrera, dans le dernier tiers, il a fait un certain nombre de passes sur une touche ou même à contre-temps qui était bien senti, qui ont permis de trouver Mbappé ou même Achraf Lancé. Donc j'ai trouvé d'ailleurs que leur niveau technique, pour reprendre les deux exemples que tu as cités, de Gueye et Herrera, au contraire, était, entre guillemets, anormalement élevé pour ce que ce jeu requiert là. Pour ce que pour ce que le jeu en losange requiert en termes de patience, d'orientation. Il y a eu notamment de la part de Gueye pas mal de contrôles orientés pour sortir de la pression qui ont été bien sentis. Donc non, au contraire, j'ai trouvé qu'on jouait vite et de façon concrète vers l'avant et qu'il y avait justement pas de touches superflues parce que ben c'est pas des joueurs qui se prennent pour d'autres quoi et que globalement dans le dernier tiers ben, ils ont fait des choses intéressantes et les deux d'ailleurs ont été buteurs et décisifs avec des buts remarquablement difficiles dans les deux cas donc non je partage pas vraiment ce point de
D'accord.
l'auditeur ami qui nous a mis ça sur le live.
Il n'y a pas de souci, t'inquiète pas. On n'est pas obligé d'être tout le temps d'accord avec tout le monde. Et puis ça fait. J'avoue que moi, entre guillemets, la prétendue lenteur m'a pas non plus spécialement choqué. Puis bon, faut quand même pas oublier que c'est un match du mois d'août où tu as des joueurs côté parisien qui vont pas forcément penser tous très vite en termes de milieu de terrain, quoi. C'est pas méchant de dire ça. Tu as des joueurs qui sont plus à même de faire vivre le ballon de façon très rapide que ceux qui étaient là. Mais je suis d'accord avec toi que bon, Gueye, il y a eu quelques prises de balles malheureuses en première mi-temps, mais en seconde mi-temps, par exemple, ça fait c'est un peu mieux. Et je sais pas, je trouve que quand on a vu la compo avec quatre milieux axiaux, je m'attendais pas forcément à un rendu aussi positif, par exemple. Loin de là même. Je suis d'accord avec vous, en termes de mi-temps, c'est probablement d'un point de vue collectif la meilleure mi-temps de l'ère Pochettino depuis. Ouh là là. J'ose même plus compter. Mais en tout cas.
Depuis qu'on est arrivé sur les derniers tours de Ligue des Champions, quoi. Parce que ça a joué pas mal jusqu'au Bayern, peut-être un peu avant, puis après. Non, jusqu'au Barça, pardon, puis après c'était un peu plus compliqué en Ligue 1, tout du moins.
Bah, tu vois, par exemple.
Montpellier en Coupe de France, ça avait très très bien joué.
Ouais, je suis d'accord. Montpellier Coupe de France, j'allais te citer OL PSG, sinon ça doit être
Ouais, c'est vrai, c'est vrai.
début avril. Mais c'était un match particulier où tu joues une grosse équipe, et puis en plus, bon, ils nous avaient gentiment laissé mettre Mbappé face à Léo Dubois, donc ça avait été un carnage, forcément. Mais en fait, j'ai souvent critiqué, ou régulièrement en tout cas, j'ai été déçu un peu du manque d'idées de Pochettino, un peu l'impression qui subit un peu trop parfois. Autant là, en cours de match, je trouve qu'on peut toujours lui reprocher ce coaching qui est parfois un peu tardif. Autant je trouve qu'il y a eu... Il y a vraiment une idée qui se met en place, quelque chose qui tente de faire marcher, en fait. T'as l'impression qu'il travaille sur son équipe, en fait. Et c'est pas forcément...
Manque d'idées, je pense pas que ça soit adapté à ce qu'on voit sur le début de saison, en tout cas, parce qu'il a testé beaucoup de
choses.
Après, c'est vraiment une période de test où t'intègres des joueurs en même temps que tu parfais un peu leurs conditions physiques, etc. Et tu prends les trois matchs qu'on a joués en Ligue 1, à chaque fois, t'as vu des choses assez, assez différentes. Rien que le match face à 3, on a vu pas mal d'animations différentes, avec soit un milieu qui décrochait entre les centraux, en début de deuxième période, c'est Diallo qui reste faire le troisième central, et le côté gauche est un peu, aligné, est un peu occupé par Draxler et Mbappé en alternance, un peu comme ce qu'on a vu parfois sous Tourelle. Tu as vu un 4-2-2-2-2, enfin 3-2, il y a peut-être un 2 de trop dans ce que j'ai dit. Pareil, qu'on avait pu voir aussi sous Tourelle, avec deux meneurs excentrés qui rentrent dans l'axe. Se rapprocher en soutien des attaquants avec les deux latéraux qui prennent le couloir. Là, tu as vu à nouveau quelque chose d'autre sur le match de vendredi. Je pense qu'on est dans une phase de rodage. Je ne pense pas que la forme définitive de l'équipe elle soit encore assez claire pour Pochettino, parce qu'il nous manque des joueurs fondamentaux encore et qui conditionnent beaucoup l'équipe. Mais à mesure où on intègre de nouveaux joueurs, ils tentent de nouvelles choses aussi. Donc, pour le moment, je pense que ça reste une phase de test et une sorte de deuxième préparation pour nous. Donc, peut-être pas tirer des points sur la comète et vouloir voir des enseignements partout. En tout cas, il veut, enfin, il tente diverses options, mais pas rester sur le seul 4-2-3-1 de ces 6 premiers mois pour le moment.
Ouais, non, mais non, c'est dans le sens, effectivement, il a beaucoup essayé de choses, aussi bien en prépa que depuis le début de la saison, mais je trouve que c'est la première fois où quelque part, j'ai envie de dire, il y a le système qui clique avec les joueurs, quoi. Ça, c'est un peu quelque chose de nouveau. Contre Strasbourg, par exemple, tu t'es beaucoup, beaucoup, beaucoup appuyé sur Mbappé d'un point de vue individuel. Tu n'avais pas forcément un milieu qui fonctionnait très bien. Enfin, on aurait pu parler du match de Wijnaldum contre Strasbourg, par exemple. 37 ballons touchés quand tu as un milieu relayeur, c'est que tu n'as pas existé du match, quoi.
Mbappé, en plus, vu qu'il avait inversé les positions de Draxler et Wijnaldum contre Strasbourg, c'était un des ajustements que Marty venait d'évoquer. Donc, ouais, c'était un peu plus stéréotypé contre Strasbourg. Là, pour le coup, c'était... un peu plus football champagne, on peut le dire, en tout cas dans la volonté de jouer en une touche, d'enchaîner vite, de bien jouer. Et moi, peut-être un regret que j'ai sur ce match, c'est le début de deuxième mi-temps, où il n'y a qu'un but, d'écart. Et pour autant, le PSG joue d'une manière beaucoup plus scolaire, c'est-à-dire que les joueurs sont plus loin les uns des autres, la forme du losange est un peu mieux respectée. Et comme Brest avait fini par comprendre un peu comment on procédait, ils avaient augmenté le niveau d'agressivité, c'est-à-dire que les décrochages étaient suivis, que les joueurs prenaient des charges dans le dos et tout. Sauf que du coup, plus d'espace entre les joueurs, plus difficile de trouver des appuis, et ça nous a un peu court-circuité le début de deuxième mi-temps avec ballon, et on a eu beaucoup plus de mal à reproduire les séquences un peu pétillantes de la première mi-temps. J'ai pas compris que... un peu cette adaptation, ce côté un peu plus sage, au final, ça ne nous a pas apporté grand-chose. Et là où je pense que Pochettino peut tenir quelque chose avec ce plan initial de première mi-temps, c'est que tu ne pourras plus nous défendre en zone. Si tu mets tous les joueurs côté ballon, proches les uns des autres, à un moment donné, ton marquage en zone, il va subir pas mal de difficultés parce que tu auras plus de Parisiens, limite, que d'adversaires sur les côtés, et c'est un peu ce qu'on voit avec l'Atalanta. Et ça donne des situations très délicates à gérer, où les adversaires sont parfois obligés du coup d'augmenter le niveau d'agressivité. Mais s'ils augmentent l'agressivité et qu'ils resserrent un peu les marquages plus orientés sur l'homme, là t'as des mecs qui vont revenir bientôt sur le terrain, les Neymar, Di Maria, Messi. Eux, les marquages individuels, ils les font exploser sur un dribble, et derrière c'est toute l'équipe adverse qui peut s'écrouler et qui court vers son but, quoi. Donc ça m'étonnerait pas qu'on pousse un peu dans ce sens les prochains matchs.
Ouais. Par contre, il y a peut-être un léger écueil à ça, Simon, et je ne sais pas si tu l'as remarqué, mais en tout cas, en première période, le fait qu'on fixe énormément de joueurs côté ballon, ça a engendré qu'à la perte, il y a vraiment une latence pour coulisser. C'est ce que moi, j'ai relevé, par exemple, sur une action, je crois qu'il y a à la 13e ou à la 16e minute, où justement on a une perte de balle côté ballon chez les Brestois. eux, ils fixent et ils renversent tout de suite. Et du coup, ils trouvent leur latéral gauche, Uronen, complètement seul et lancé avec 30 mètres à attaquer sans le moindre adversaire. Donc, il y a peut-être aussi ce risque-là dans la tenue de la ligne défensive. Je pense que ce sera un peu un thème à aborder. Et la capacité à l'équipe à être compacte, courte, mais à ne pas totalement abandonner la zone au large, quoi, comme ça peut le faire, comme ça peut être fait dans ce cas-là, parce que Hakimi est totalement happé par la surface, très clairement, mais derrière, s'il n'y a pas la compensation, ça fait 70 mètres à attaquer, et on a bien vu que lorsqu'il y avait des joueurs côté gauche, Brestois qui avait un peu de champ, ils allaient trouver Fèvre, et Fèvre, il a la qualité pour trouver l'espace, pour trouver l'intervalle dans le dos de tes défenseurs derrière, quoi. Donc ça, c'est quelque chose quand même qui va falloir surveiller, parce que en effet, tu vas ajouter Neymar, tu vas ajouter Di Maria, tu vas ajouter Messi, mais je pense que là, on est plus face à un problème qui va être structurel que conjoncturel.
C'est intéressant le point que tu soulignes, Omar, parce que ça découle complètement de l'utilisation qu'on fait de Hakimi. Et comme l'a mentionné Simon, l'idée c'était quand même beaucoup de fixer sur notre côté gauche, côté axe gauche, ensuite de passer soit par un relais, soit directement renversé vers Hakimi lancé. Ça nous a plutôt bien réussi offensivement, du moins pour la mi-temps, on le trouve plusieurs fois sur ces situations-là. Sur d'autres situations où on aurait pu mieux le trouver, il y a une situation où Mbappé fait un dribble sur un joueur et il enchaîne avec une frappe directement au-dessus du cadre. Alors qu'il pouvait trouver Hakimi qui partait pleine balle sur le côté, le décalage était assez naturel. D'ailleurs, il s'en excuse juste après. Mais du coup, ce qu'on fait en utilisant Hakimi de cette façon, c'est que à chaque perte de balle, tu as tout le couloir droit qui peut être exploité par l'adversaire. Et là, on mise beaucoup sur plusieurs choses. La vitesse d'Hakimi pour revenir faire des compensations de très loin et espérer que l'adversaire se prenne un peu les pieds dans le tapis et perdent un peu de vitesse sur leur contre-attaque. Parfois, ça marche. Parfois, Hakimi arrive sur sa vitesse à revenir de lui-même. Tu mises sur les compensations de ton défenseur axe droit. Guerrer fait plutôt un bon début de saison à ce niveau-là. Marquinhos, quand il reviendra, il a la vitesse, il a la qualité d'anticipation et la lecture pour le faire aussi. Et sur ce match de vendredi, on a aussi vu Herrera faire ses compensations. Et après, c'est vrai que si Herrera est lui-même happé et attiré par le côté ballon, souvent axe gauche, là, tu prends le risque sur ces situations de te retrouver vraiment avec le côté droit dégarni sur les renversements adverses. D'où l'intérêt de vraiment faire très attention en possession de balle, de pas avoir de perte de balle trop facile et cadeau pour l'adversaire pour ensuite partir en contre, parce que c'est sur cette situation-là que tu peux te trouver désorganisé. Mais malgré tout, c'est un risque, je pense, qu'on va prendre de toute façon pour libérer Hakimi, pour le trouver de cette façon lancé, avec un peu de champ pour attaquer et ensuite se retrouver dans une bonne situation pour armer ou pour faire une passe décisive. Donc c'est un peu les risques de cette configuration, mais je pense que c'est une configuration qu'on va assumer malgré tout.
Ouais, tiens, c'est marrant, sur le live on nous dit dans un 4-4-2 en losange, vous voyez Neymar derrière Mbappé Messi ou Messi derrière Mbappé Neymar. Ça fait partie des questions qu'on pourra peut-être se poser un jour, mais déjà, est-ce que
ça peut Messi Neymar derrière Mbappé?
Voilà, aussi, il y a cette possibilité. Mais il y a aussi, est-ce que ce 4-4-2 en losange est voué à continuer avec d'autres joueurs? C'était un peu la question que posait Simon, je crois, au départ. Ou toi, Mathieu? Non, c'était toi, Mathieu. Tu disais, ouais, est-ce qu'on va vraiment continuer comme ça encore longtemps? C'est sûr que quand tu as 4 milieux de terrain, si tu joues comme ça, dans ce dispositif où tu mets Wijnaldum en 10, que tu n'as que deux places d'attaquant, ça veut dire que t'en as un sur le banc entre Neymar, Mbappé et Messi.
Bon. Non mais t'auras les trois. Mais par contre, si on garde ce système-là, allez, un moment il faut se mouiller. Pour moi, c'est entre guillemets le plus équilibrable. Si tu veux avoir les trois sur le terrain, il faut forcément les comprimer quelque part, bien que leur rayonnement et leur zone d'activité va être immense. Il faut les mettre proches sur le terrain pour pouvoir outiller et équiper tout le reste. Mais par contre, ça implique qu'il va falloir forcément que tu réfrènes un petit peu Hakimi. Tu lui dises, tu peux pas faire toutes tes actions sur 70 mètres. C'est pas possible parce que, en réalité, pour mettre des buts, et je le dis avec toute la sympathie, l'amour et l'affection que j'ai pour Hakimi, On n'a presque pas besoin de toi pour ça. Par contre, la tenue de la ligne, là, on a besoin de toi. On a besoin que tu sois aligné. On a besoin que tu fermes les espaces. On a besoin que tu coupes ces lignes de passe-là. Parce que les trois de devant, ils passeront pas 90 minutes sans marquer. Donc,
Je suis
c'est
pas
là
d'accord avec toi
où.
là-dessus, Omar, parce qu'ils auront aussi besoin de quelqu'un pour étirer un peu les défenses et diversifier en tout cas la près des leurs en fait pour l'adversaire. C'est-à-dire ne pas
Bah,
concentrer que l'attention de l'adversaire dans l'axe. Il faut aussi avoir des menaces un peu extérieures. Et ça nous a manqué l'an dernier, notamment.
je pense que tu as dit le mot clé, c'est-à-dire créer des leurres, parce que en ce moment, Hakimi monte, il est servi à chaque fois. Et d'ailleurs, c'est quelque chose qui fonctionne. Hein. Loin de moi
Oui, c'est
l'idée.
normal.
Hakimi, c'est un joueur terriblement décisif. Enfin, on en a parlé lors de son arrivée. Moi, pour moi, c'est 15 buts, 15 passes sans problème. Hein. Et d'ailleurs, son début de saison le prouve. Mais par contre, quand tu incorpores Messi, quand tu incorpores Neymar, qui vont avoir un champ de rayonnement absolument terrible, bah, Hakimi, ça peut l'amener à faire des courses à vide. Et ça, c'est d'autres efforts à répéter. Et on rentre là dans la fine politique des égos, du coefficient de décision des uns et des autres. Et ça, pour le coup, c'est un sacré boulot qui s'annonce pour Pochettino et son staff. Au-delà de l'aspect physique, qui semble aussi globalement très bon pour les joueurs qui sont sur le terrain.
L'utilisation d'Hakimi offensivement, elle est totale sur les premiers matchs de la saison parce que sur les situations où on a un centre qui vient du côté opposé, par exemple un centre de Diallo, le deuxième attaquant dans la surface, en plus d'Icardi, c'est souvent Hakimi qui arrive au deuxième poteau pour faire quasiment le deuxième attaquant de l'équipe. Il vient vraiment finir les actions dans la surface. Évidemment, il n'est pas toujours trouvé. Les ballons arrivent parfois sur Mbappé en retrait, parfois Icardi premier poteau. Et à chaque fois, il est là pour vraiment terminer l'action et fermer en fait la possibilité de centre pour pouvoir donner une solution supplémentaire si jamais le centre de Diallo arrive sur le second poteau. Donc son utilisation, elle va même jusque-là, en fait. Elle va même dans la surface. D'ailleurs, c'est comme ça qu'il se retrouve à frapper à tous les matchs, en fait, Hakimi. On va voir un peu comment ça va s'équilibrer avec Messi, Neymar, Mbappé quand ils joueront tous ensemble. Mais malgré tout, je pense que c'est des joueurs qui ont aussi besoin d'avoir des solutions et des propositions sur les côtés. Si tu permets à l'adversaire de vraiment trop resserrer l'axe et de mettre beaucoup de monde sur Messi, sur Neymar, ils vont avoir beaucoup plus de mal parce que les espaces vont être vraiment très réduits, très comprimés, très denses et pas vraiment de solution pour arrêter le jeu et pour profiter de leur qualité de passe. Et c'est un peu ce qui nous a manqué aussi sur les matchs de l'an dernier. On se rappelle du match face à Lille au Parc, où on joue avec Kerrer et Diallo, il me semble, en latéraux. Et à un moment, tu peux. Enfin, face à une équipe qui défend très bien et très zonale, mais très axiale, quitte à te laisser 10 mètres de largeur sur les côtés, sur les deux côtés, on n'y arrivait pas, on ne trouvait pas les solutions parce que tu n'avais pas la capacité à menacer aussi de façon plus extérieure. Donc, c'est tout un équilibre à trouver défensivement, offensivement, dans la répartition des zones, aussi dans la conscience des uns et des autres de ne pas faire n'importe quoi quand ils ont le ballon, de ne pas rendre les ballons trop difficilement. Typiquement, les deux actions où on se prend des buts, Mbappé et Icardi, c'est des actions où ils doivent faire beaucoup mieux les deux. Et c'est des transitions que tu peux prévenir de façon très simple et sans demander l'impossible à ces deux joueurs en question. Voilà, c'est un peu tout genre d'ajustement aussi, apprendre à jouer les uns avec les autres et se connaître aussi en tant que partenaire. Parce que si tu changes un gros tiers d'équipe comme on le fait cet été, peut-être même une moitié, ça demandera ces réglages-là et ces nouvelles compréhensions entre les joueurs.
Ouais, bah il va falloir qu'effectivement tout le monde se trouve. Est-ce que, enfin moi pour revenir un peu sur le match, sur un peu par rapport notamment à Hakimi, est-ce que dans ce 4-4-2 losange qui s'annonce, on a vu que Hakimi occupe remarquablement le côté droit. Est-ce qu'on va pas avoir un problème peut-être à occuper le côté gauche, puisque bah, aujourd'hui on a Diallo qui montre un peu des limites au poste et c'est normal, hein. Lui le pauvre, il fait comme il peut. On a Kurzawa on sait pas trop dans quel état, et on a Bernat qui est annoncé pour septembre, mais qui fait même pas les entraînements. Est-ce que finalement, dans ce 4-4-2 en losange, on va pas se retrouver à devoir en fait faire un système asymétrique parce qu'on n'a pas l'arrière gauche qu'il faut? Je sais pas, ça vous a pas choqué, moi, la différence d'utilisation entre la gauche et la droite?
Mais je suis pas sûr qu'il faille chercher la symétrie déjà, et je suis pas sûr que l'animation du côté gauche, du coup, c'est pas un enjeu qui se pose du tout comme le côté droit, parce que tes joueurs les plus forts, plutôt à l'aise soit dans l'axe, soit à gauche. Alors avec une petite exception pour Messi et Di Maria, mais c'est des joueurs totaux qui peuvent, dès qu'ils sont capables de connecter un peu avec les autres ou d'être face au jeu, ils sont capables de faire des différences un peu partout sur le terrain. Pour reprendre un peu mon exemple de l'Ajax de tout à l'heure, qui joue en 4-2-3-1 la plupart du temps et qui te met une énorme densité sur les ailes, eux pour le coup, c'est pas une histoire de un joueur t'anime une zone. C'est vraiment une équipe qui se déplace ensemble et qui réduit les distances entre les joueurs pour être capable de faire circuler le ballon, de générer du déséquilibre et ensuite éventuellement attaquer le côté opposé ou trouver la profondeur. Mais d'ailleurs, dans le cas de l'Ajax, le renversement côté opposé n'est même pas vraiment une nécessité ou une obligation. Il y a beaucoup de moments où ils attaquent par exemple côté gauche et ils finissent l'action côté gauche. C'est des choses qu'on peut voir aussi. L'action du premier but, je crois, on construit uniquement côté gauche avec Verratti qui s'excentre énormément, Mbappé qui s'excentre énormément. Quant à ce genre de configuration sur le terrain, avec un Mbappé notamment qui est capable de très très bien animer un côté gauche, soit en passant par l'extérieur, soit en repiquant dans l'axe, ce qui sera le cas de Neymar aussi, je suis pas sûr que tu aies besoin que ton latéral gauche ce soit un Hakimi bis.
Non, mais.
Je pense qu'il faut aller sur la symétrie et que tu vas t'en sortir plus en rapprochant les joueurs les uns des autres plutôt qu'en définissant un peu des zones à attaquer et des joueurs chargés de le faire.
Ouais, je sais pas, moi je trouve qu'il y a des moments où si tu peux jamais te retrouver avec un arrière-gauche qui est capable de t'amener un peu de largeur, parce qu'au final, Verratti a. En gros, tu te retrouves avec une zone d'où tu centres jamais, quoi, en fait. C'est un peu ça qui me gêne. Ou rarement en tout cas, parce qu'on sait, on voit que Diallo, quand il faut rentrer dans les 30 derniers mètres, il n'est pas du tout à l'aise. Et puis c'est enfin, je n'en veux pas, hein, il dépanne avant tout. Je sais pas, moi j'avoue
Mais
que.
il a mis une passe décisive à Icardi contre Strasbourg. Hein.
Oui, voilà, mais t'as vu d'où il centre. Il centre de 35 mètres. Et c'est pour le coup, je trouve que c'est plus Icardi. Enfin, les deux font une belle action. Non, je peux pas dire plus Icardi que Diallo, même si le goal n'est pas non plus extraordinaire. Mais combien de fois tu l'as vu centrer J'ai l'impression que le dernier centre qu'il a fait pratiquement depuis le côté de la surface de réparation, c'était pour Neymar contre Strasbourg, le fameux retourné, quoi. Enfin,
Et il en fait un contre Brest, Philo.
Oui, t'as raison, oui, t'as
Celui
raison.
qui Cardi manque de peu, mais j'ai trouvé justement que sur la première période, il a eu des actions assez profondes. Il a tenté de combiner, il a eu pas mal de dribbles. Et là où moi je rejoins Simon, c'est que je suis pas partisan aussi d'une symétrie à tout prix. Et surtout si on est sur une idée d'équilibre, comme c'est un peu le débat en sous-texte depuis qu'on a rajouté Messi à cette équipe-là, l'idée d'avoir un profil moins conquérant, moins dévoreur d'espace, et peut-être plus tenu sur la correction et sur la correction et la capacité à tenir la ligne, c'est peut-être quelque chose qui, dans l'équilibre, pour reprendre le mot total de l'équipe, va peut-être être plus favorable. Parce que si demain tu incorpores la meilleure version de Bernat, tu vas être quelqu'un qui va être impeccable pour donner de la continuité à la possession. Ça, c'est quelque chose qui va être fondamental, hein. Clairement, le niveau technique là de l'équipe va encore augmenter de 3 crans avec les futurs arrivants, et Bernat il dénotera pas. Par contre, tu sais que dans la rigueur défensive, dans la couverture et la compréhension avec son défenseur central gauche, bah tu vas te retrouver pour le coup face à une symétrie de problèmes côté gauche et côté droit.
Totalement,
Je
oui.
le dis. Je le dis un
Ah,
petit
tu les
peu,
as
je dis
déjà
un petit
Diallo,
peu
hein.
en rigolant. Ouais,
Le problème,
tu
c'est que
les as eu
Diallo est
avec.
défaillant aussi en phase défensive, et tu l'as vu sur le match de vendredi.
Après,
Hein. Il se faisait
je
prendre
sais
dans son dos,
pas.
quand il se faisait prendre sur des grands ponts, quand il. Parfois, il y a aussi des problèmes de distance avec Mbappé, on les a vus plusieurs fois aussi. Parfois, il est beaucoup trop proche, il laisse trop d'espace à l'attaquant qui vient le défier. C'est des soucis qui concernent aussi Diallo. Hein.
Moi, je te rejoins, Mathieu. J'avoue que la façon dont un ailier.
Plus défensivement qu'offensivement, il a inquiété, j'ai trouvé Diallo sur le match de vendredi finalement.
Ouais, peut-être bien. Ouais. La façon dont Honora, qui est un ailier vraiment pur jus, qui est un bon joueur de Ligue 1, Honora, mais je ne pensais pas qu'un joueur, un ailier quelconque ou plutôt classique de Ligue 1, serait autant en mesure de faire souffrir Diallo, quoi. Parce que, enfin, il y a des fois, c'est des simples appels de balle, du appel contre appel. Je sais pas, j'avoue que ça m'a un peu choqué la façon dont il a été en difficulté défensivement sur un système où, effectivement, si on admet que, comment dire, qu'on continue comme ça avec un latéral qui va attaquer beaucoup, qui sera donc Hakimi, et un qui va forcément le faire moins, qui sera Diallo, il faut au moins espérer que Diallo soit en mesure de gérer défensivement son couloir. Et pour le coup, là, il a montré des lacunes face à un joueur de couloir qu'on lui avait, on l'a, franchement, on l'avait rarement vu autant en difficulté. Alors, sur là, on me dit c'est peut-être qu'il n'était pas bien physiquement, parce qu'on sait que dès qu'il n'est pas bien physiquement, ça peut vite se gâter. Je souhaite que ça soit ça, parce que je trouve que pour le, là, d'un coup, tu prends un peu, t'es un peu entre guillemets dans le cas où finalement, tu, même si je trouve qu'il n'a pas fait que des mauvaises choses, finalement, bah, tu t'as pas, t'as que tu joues avec un défenseur qui attaque beaucoup Hakimi, hein, qui défend pas très très bien, qui serait Diallo, plus la charnière, et c'est pas forcément un hasard si Kimpembe se retrouve un peu en difficulté parce qu'il devait gérer un poste ennemi, quoi. Enfin, et même si on me dit que c'était que Onora, c'est un bon joueur de Ligue 1 qui est pas forcément évident à prendre dans un bon jour. Il était dans un bon jour, mais je suis d'accord que c'est pas normalement. Diallo doit faire mieux que ça. Bon, je sais pas ce que si vous pensez que c'est structurel ou si c'est juste lié au match, ces difficultés de Diallo, Omar, par exemple.
Bah, pour moi, on touche à quelque chose de très particulier parce que Diallo, du coup, là, il enchaîne à ce poste de latéral. Il a une fin de match qu'on a vue, hein, une fin de match qui était assez difficile, où les Brestois sont venus attaquer en nombre dans sa zone. Ils l'ont attaqué en un contre un, ils l'ont attaqué de face, ils ont attaqué l'espace entre lui et Kipembe. Et on a vu que dans la prise de décision et dans les choix, ça n'a pas toujours été pertinent. Il a été plus qu'en difficulté. Mais je pense qu'on est obligé de se poser la question. En tout cas, moi, c'est celle que je me suis posée au moment où ça se passait sur le direct. C'est qu'est-ce que ça implique en fait de changer de poste à 24 ans quand on est morphologiquement et intellectuellement un pur défenseur central. Je pense que en termes de nociception, de réflexes. C'est très compliqué en fait de changer le socle d'un joueur, même en termes de mouvement. Il y a tout ce qui est les habitudes musculaires. Et en fait, quand on l'a vu sombrer, c'est parce qu'en fait, moi, en tout cas, l'explication que je me suis faite, c'est qu'il a répété des efforts trop proches, trop courts, et qui ne ressemblent pas à des efforts de défenseurs centraux. Et qu'en fait, ça a altéré même sa capacité à tenir la ligne, qui est quelque chose qui fait assez bien en manière générale. Donc, est-ce que ce processus de transformation, c'est quelque chose qui est en cours et que le staff a décidé que Abdou Diallo sera un latéral gauche, donc ils sont en train de le préparer même physiquement à ce qu'il devienne un latéral gauche pour encaisser ces efforts-là, ou est-ce qu'on est dans du dépannage et du bricolage? Et là, je reprends un petit peu ce qu'on se disait tout à l'heure. Il faut essayer de séparer le conjoncturel et le structurel. Si on regarde que le conjoncturel, il faut regarder les états de forme. Il faut se dire que peut-être trois quarts de la défense que l'on a vue là ne sera pas la défense titulaire et que effectivement ce ne sera pas à eux d'avoir la responsabilité de tenir la ligne. Mais par contre, ce qui est plutôt structurel sur ce début de saison, c'est l'espèce de flottement sur les couvertures, le petit retard à l'allumage qu'on a au moment où on est fixé et les grandes couvertures qu'il va falloir faire à droite pour donner la liberté à Hakimi d'être décisif. Donc, dans le cas de Diallo, je pense qu'il faut englober un petit peu toute la défense centrale, enfin toute la ligne défensive qui est, à mon sens, hein, hormis Kerrer, si on le raisonne individuellement, qui est en dessous du niveau attendu. Et en dessous du niveau requis, et qui est même assez inquiétant pour certains. Notamment, je pense à Kipembe en disant ça.
D'accord. Tom dit sur live, vu son interview récente à Abdou, il le prépare à ça. Peut-être, je sais pas, Simon ou Mathieu, ce que vous en pensez un peu du. On est passé au perf individuel, hein, pour ceux qui n'auraient pas compris. On a basculé tranquillement, mais sûrement.
C'est fluide, c'est fluide.
Ah, là, on est terriblement fluide, là. La circulation de balles, 75%.
C'est un podcast liquide.
Hit map au top. Ouais, non, sur un peu le match de Diallo, la conclusion. En fait, l'approche qu'a Omar, effectivement, sur la façon dont le joueur est peut-être en train d'être changé de poste, de souffrir comme ça.
Il faudra déjà voir la fin du mercato.
Oui.
Mais si on reste en l'état, bah, il va devoir pas mal jouer arrière-gauche, j'imagine, puisque Kurzawa est passé complètement aux oubliettes. Et dans l'axe de la défense, bah, il a une autre concurrence, puisque Ramos s'est rajouté. Donc c'est sans doute un moyen pour lui de gratter du temps de jeu. Par contre, si on fait venir un arrière-gauche, là, par contre, on passerait d'un joueur qui serait quasiment proche du 11 de départ à un joueur qui jouerait plus du tout, presque, Diallo. Donc, pour lui, c'est une semaine qui est importante, hein, qui va jouer actuellement, parce que son temps de jeu peut vraiment se ressentir de la façon dont le PSG va agir sur cette dernière semaine de mercato. Après, c'est vrai que c'est un peu étonnant, j'ai trouvé quand même les difficultés défensives qu'il a eues, notamment dans l'un contre un, même en début de match, au quart d'heure de jeu à peu près, il se fait prendre dans le dos sur une sorte de 1-2 où globalement le joueur, enfin le Brestois, met le ballon entre Kimpembe et lui, et il y a un alpède dans son dos et qui ne gère pas. Après, l'action va pas au bout, mais comme ça il se fait prendre, il perd la référence et la notion de où est son adversaire direct. Des situations que normalement que tu peux retrouver quand tu es défenseur central aussi. Pareil, le grand pont qui me prend en deuxième période, il est un peu sur le reculoir. Alors certes, c'est sans doute loin du but et c'est dans une position un peu excentrée qu'il n'a pas forcément l'habitude de croiser en tant que défenseur central. C'est pas non plus des situations qui sont complètement nouvelles pour lui. Donc je sais pas, c'est un joueur aussi qui a quand même déjà joué arrière-gauche, même à Dortmund. Donc c'est vrai que j'étais un peu surpris quand même de le voir dans cette difficulté-là. Après, c'est peut-être aussi un état de forme de sa part, des difficultés physiques, une façon d'encaisser la préparation, que sais-je. Il peut y avoir plein de raisons et de motifs pour expliquer un moins beau match, hein, et ça arrive. Mais en tout cas, c'est vrai que les adversaires, je pense, visent et ciblent aussi ce côté. On avait vu face à Troyes aussi, les pistons troyens. Ils étaient beaucoup passés aussi sur ce côté-là. Il faut dire qu'on défendait assez peu sur ce côté avec Mbappé. Pochettino a été obligé de passer en 4-4-2 à plat, mettre Wijnaldum sur ce couloir pour essayer de boucher un peu les trous. Et on n'était même pas vraiment arrivé. La fin de match a été assez chaude, mais voilà, bon, faudra voir un peu la fin de mercato, les conséquences de si Paris va acheter un joueur en plus. Faudra voir aussi si ce joueur est vraiment meilleur que Diallo, parce que j'ai pas dit qu'on trouve un vrai titulaire au niveau en 6 jours ou 7 jours de marché restant.
Bah,
et bon.
On a vu l'an dernier qu'on avait recruté des titulaires le 31, le 5 octobre.
Ah, voilà, c'est souvent des opportunités, et puis même. Si on passe un peu au niveau stratégique, est-ce que le club va vouloir faire un investissement sur un latéral gauche alors que potentiellement Bernat qui revient, et si Bernat revient à son bon niveau, ben le joueur que tu vas racheter à son meilleur niveau, ben le joueur que tu vas racheter va peut-être se retrouver indésirable au bout de 6 mois et sans aucun rôle dans l'effectif. Donc bon, c'est un peu des considérations que doit envisager le club en ce moment. Et si on continue avec juste Bernat et Diallo, ben forcément Diallo va devoir s'habituer à ce poste-là, parce que clairement, c'est lui le plus proche du 11 au départ actuellement, tant que Bernat revient pas.
Bah Bernat, je veux pas être un oiseau de mauvaise augure, parce que...
Ah, il est souvent quand même avec le groupe, mais parfois, c'est
ouais,
vrai qu'il fait
il vise un retour à la compétition en septembre. On est le 23 août, il fait même pas toutes les séances avec le groupe, quoi. Donc avant même de penser à la compétition, il en est encore à penser à reprendre l'entraînement, quoi.
Les séances avec le groupe, mais c'est vrai que celle avec le public la dernière fois, il l'a pas fait. Mais...
Il les finit pas toutes, apparemment.
Non, il les finit pas, quoi.
Mm.
Et je veux pas être méchant, mais là aujourd'hui, on a fait sur le site, Lucas a fait un super article sur les listes UEFA où on en est. On n'a pas mis cette possibilité, mais moi j'exclus pas du tout que Bernat il soit pas sur la liste de la Ligue des Champions pour la première partie de saison, par exemple. Hein. Parce que visiblement, il est pas prêt, alors que c'était quand même attendu qu'il revienne sous peu. Donc voilà.
Avoir que Diallo et Kurzawa sur la liste de Noël et Jean-Fan, c'est un peu téméraire, du coup. Mais
bah ouais,
avant ce qu'il y ait, j'ai recruté en conséquence, du coup.
À voir, mais honnêtement, la question de l'arrière-gauche, de Diallo, tout ça, sachant qu'on a des limites sur les joueurs non formés en France ou non formés au PSG,
Ah, c'est clair.
me paraît être un vrai, vrai souci. Et
Aujourd'hui, on a 20 joueurs, 20 joueurs non formés en France. Et tu peux en mettre que 17. Donc, ok, Rico, ok, Rafinha, mais bon, après, peut-être que tu préfères mettre Sarabia que s'il reste.
Ouais, non,
Que
non, mais oui, bah oui, ça
Bernat.
fait. On me demande ce que ça fait plus d'un an que Bernat n'a pas débuté un match. Non, non, il avait joué un. Il s'est blessé le 15 septembre. Mais là, officiellement, ça y est, on a passé les 11 mois de convalescence et il est toujours pas remis. C'est un point qui, comment dirais-je, qui revient régulièrement, 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 mais c'est toujours un souci, quoi. Donc, on va voir. Et puis, bon, les communiqués médicaux du PSG nous disent qu'il est toujours en phase de reprise. Phase de reprise, ça fait 6 mois qu'il est en phase de reprise, quoi. Donc, bon. On va voir. Sur le match de. Bon, Simon a disparu, donc sa connexion a dû lui dire adieu. De quel autre joueur vous voulez parler concernant ce match du PSG à Brest? On voulait évoquer le cas de Kimpembe, qui a beaucoup été pointé du doigt, qui avait déjà pas été terrible, terrible contre. Bon, ça s'appelle contre Strasbourg. Ou vous voulez parler d'un autre joueur, par exemple, où on parle de Kimpembe?
Si tu veux, on peut continuer sur la ligne défensive et en effet parler un peu de Kipembe, qui est dans un rôle pas simple, parce que je pense, et ce serait difficile de dire le contraire vu l'étroitesse de sa prépa, qui n'est pas du tout à un niveau physique qui est nécessaire pour qu'il soit Kimpembe en fait. Et on le voit même dans la tension dans ses passes qui est pas toujours celle qu'on peut connaître quand il est bien en CAN. Il y a des temps de réaction qui sont anormalement longs. Il y a des prises de décision qui sont mauvaises pour le joueur qu'il est. Et clairement, il dégage. Moi, je trouve assez peu de sécurité en ce moment. Quand j'ai vu Kerrer faire plusieurs corrections en première période, enfin, j'ai rebooté la box pour savoir si Prime faisait pas une blague, quoi. Donc, je dis sur le ton de la blague, mais les matchs de Kimpembe sont pas bons en ce moment, tu vois. C'est clair et net, quoi. Il est ni rassurant, ni leader de sa ligne défensive. Et forcément, c'est à lui qu'on impute un peu tout ce flottement, le fait qu'on remonte pas bien, qu'on joue mal les hors-jeux, qu'on se fasse prendre aussi souvent. Donc, reprise difficile pour Kimpembe, qui a peut-être fait un. Je crois qu'il avait fait un très bon match contre Lille. Sur sa caisse et sur le fait que il ait pu enchaîner, mais là c'est compliqué, ouais.
Ouais.
J'ai trouvé qu'il a vécu un match très compliqué.
Moi, je suis d'accord avec toi. J'ai l'impression qu'il s'est vraiment donné à fond lors du Trophée des Champions contre Lille, où il y allait au mental, mais que là, il a un vrai contre-coup physique, peut-être aussi mental, avec l'arrivée de Ramos qui a pu lui mettre un coup au moral. Et ça se voit qu'il n'est pas il est pas prêt, quoi. Enfin, je serais pas surpris, par exemple, que le week-end prochain à Reims, on ait une charnière Kerrer-Marquinhos, par exemple.
Ouais.
Je sais pas
Bah,
ce
ce
que.
serait logique. Ce serait
Ouais.
logique pour réintégrer Marquinhos et continuer un peu de surfer sur la forme de Kerrer qui, pour le coup, n'était pas forcément convaincu quand tu l'as annoncé après le trophée des champions, Philo, mais au final, tu avais raison, du moins sur les matchs qui ont suivi, qui étaient annonciateurs des matchs qui allaient suivre. Parce que les trois matchs de Kerrer en Ligue 1 sont vraiment de bonne facture et c'est à chaque fois le meilleur du duo et le joueur qui donne le plus de sécurité défensivement. C'est ça qui est un peu étonnant et peu habituel avec lui, mais pour le coup, on est obligé de lui reconnaître et de mettre à son crédit ce qu'il fait et ce qu'il a produit sur les trois dernières sorties.
Oh bah, j'avoue que je pensais pas qu'il serait. Enfin, j'imaginais pas Kerrer meilleur que Kimpembe en 2021, par exemple. Je sais que c'est une charnière que. Enfin, on en a parlé pas mal de fois. Moi, j'ai toujours trouvé très limitée, par exemple.
C'est la pire charnière possible du PSG
Oh non,
aussi.
non, Kerrer Diallo, c'est la pire. Kerrer Diallo, ils nous ont fait ces dingueries. Souviens-toi, un match amical contre des deux Allemands, on se faisait balader, ils faisaient n'importe quoi, les deux.
Ils ont rarement joué ensemble.
Ouais, bah, vaut mieux pas.
Kerrer
Non,
qui est
non.
le même, on l'a quand même vu à pas mal de fois et bon.
C'est dommage que le destin nous ait privés de Kerrer Danilo l'an dernier, parce que je pense qu'entre le Kerrer de la saison dernière et de notre ami Danilo, qui parfois était un peu en difficulté face à certains types de joueurs, on aurait pu voir des grandes choses footballistiques. Mais ouais, là, pour revenir sur la chaîne Kimpembe Kerrer, Elle a rarement bien fonctionné. En général, c'était Kerrer qui était complètement à la rue. Et là, ça fait bizarre de voir Kimpembe être plus en difficulté que Kerrer, quoi. La première mi-temps, c'est Kerrer qui s'occupe de Mounier, qui s'en occupe bien. C'est Kerrer qui corrige un peu côté Hakimi. Tu le vois aussi des fois, comme tu dis, Omar, quand tu le vois aller corriger côté Kimpembe, tu vois, oh là là, ça, c'est pas bon parce que Thilo, bon, la correction en général, c'est pas trop son truc. Lui, il est plutôt là pour déglinguer le type adverse, quoi. Et là, quand tu vois ça, c'est bon. Faudra voir Kimpembe la façon qu'il aura de rebondir. On sait que, enfin, c'est terrible de dire ça et à la fois assez logique, mais bon, ça reste un joueur de 26 ans donc, qui a encore beaucoup de marge de progression puisqu'il a quand même, il a plutôt débuté sur le tard et il a pas non plus énormément joué dans sa carrière. Hein. Mais il va falloir qu'il s'adapte à ce peut-être à être. Il faut qu'il devienne capable d'être bon ou d'être au moins pas handicapant en étant moins en forme physiquement. Parce que là, on voit que dès qu'il n'est pas prêt physiquement, très 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 compliqué très vite, non? Enfin, je sais pas, Simon ou Mathieu, si vous voulez compléter sur.
Ouais.
Oui?
Ouais, bah après Snell, ouais, beaucoup plus dur pour lui depuis le match de Lille. On sent qu'il a il a pas grand-chose dans le moteur, quoi. Il a pas beaucoup de gaz, pas beaucoup de lucidité, et ça l'impacte sur tout son match. Je pense que ça fait un moment, par exemple, qu'on l'avait pas vu aussi neutre, aussi peu impactant avec le ballon, alors que pour le coup, face à Brest, l'équipe s'est plutôt amusée avec le ballon toute la première mi-temps. Donc je pense que là, il est dans le dur grave et qu'il va falloir revenir petit à petit et en attendant, comme tu l'as dit, au moins essayer de garder de la sobriété, de la lucidité et de pas se laisser embarquer dans des duels impossibles ou dans des situations un peu présomptueuses parce que en temps normal, entre guillemets, il serait capable de le faire et là, sa condition est un peu trop juste. Donc je pense que il y aura une question un peu de temps malgré tout, qui se refasse un peu la caisse, qui passe un peu ce premier péage d'avoir eu un retour très précoce et très abrupt comme ça à la compétition. Après, sinon, confiance en lui, hein, il est plutôt fiable depuis un moment. Donc, ouais, effectivement, il faut qu'il se remette un peu d'aplomb, qu'il fasse pas n'importe quoi en attendant, qu'il serre un peu les dents, mais. Je vois pas de raison de se faire plus de soucis que ça malgré tout. Surtout que Kerrer à côté, lui pour le coup, on l'avait pas vu dans cet état de grâce depuis
Depuis deux
peut-être le
ans et
début de sa
demi.
carrière en vrai. Hein.
Non,
Vu que
depuis.
déjà à Schalke, il avait un côté un peu trop fort en adrénaline.
Un côté enrichi en dinguerie, on va dire.
Ah ça,
Non,
école
mais.
allemande.
Non, juste pour. Sur Kimpembe, on nous dit qu'est-ce que Pochettino fait. Sur le live, pardon, on dit qu'est-ce que Pochettino fait avec Kimpembe? Bah, le problème de Kimpembe, c'est que.
Il le fait jouer.
Il le fait jouer parce qu'il n'a pas grand monde d'autre. Il va pas faire jouer Marquinhos qui est rentré trop tard. Ramos, il est arrivé début juillet, mais il jouera pas avant au mieux mi-septembre. Voilà, vous faites par élimination et vous vous retrouvez. Ou alors, faut faire jouer Diallo dans l'axe. Mais à ce moment-là, il n'y a personne à gauche puisque Kurzawa n'était pas apte. Je sais plus ce qu'il avait encore. Mollet, je crois, de nouveau Kurzawa. Bon, voilà, au bout d'un moment, faut faire des choix. Et donc, par élimination, bah, Kimpembe se retrouve à jouer beaucoup. Je pense qu'il aurait préféré ne pas le faire jouer. Comment dire, pas le faire jouer autant, comme on me dit sur le live, 26 ans et c'est un bon moment pour lui qu'il apprenne à jouer avec sa tête et qu'il joue pas qu'avec son physique pour ce bon Presco. Bah,
Ah,
ça.
on va pas tomber dans ce raccourci-là. Il joue pas qu'avec son physique, mais pour sa qualité d'intervention et même dans ses choix, dans la prise de décision, c'est un joueur qui a besoin d'être en canne. Ça se voit. Ça veut pas dire qu'il met son cerveau sur le côté et que c'est une brute épaisse. Loin de là. C'est un joueur plutôt intelligent, Kimpembe. Mais il a besoin d'être à un niveau de physique, à un certain niveau physique pour améliorer sa prise de décision.
Ouais. Après, je sais pas si c'est que du physique parce que si tu
Ah,
prends les buts face
j'aurais
au
dû me
Strasbourg.
douter que c'était Ryan.
Oui, vas-y, Mathieu.
Mais après, je sais pas si c'est que du physique parce que si tu prends les buts face à Strasbourg, c'est de la mauvaise lecture de trajectoire sur des centres. Et ça, on sait que c'est aussi un domaine où il est inférieur à Marquinhos, où il était inférieur évidemment à Thiago Silva qui prenait tout. Si Ramos, si on finit par voir Ramos sous le maillot du PSG, c'est un domaine aussi où il sera inférieur à Ramos. Donc. Ah, c'est pas non plus que un manque de physique qui lui ferait faire des interventions un peu à contre-temps et prendre des cartons jaunes, etc. Il y a aussi un côté des défauts qu'il a malgré tout en lui, quoi, et qui font qu'il a toujours une marge de progression en tant que défenseur.
Ouais. Bon, après, on est d'accord, enfin, comme le dit Simon, on s'inquiète pas non plus spécialement pour lui, mais c'est vrai que c'est dommage parce que.
C'est quand même charnière, c'est quand même une saison charnière pour lui si tu prends le Presnel Kimpembe, parce qu'il sort d'un euro qui n'a pas été bon, où sa place peut être mise en cause en tant que celui qui va accompagner Varane. Il y a eu pas mal de voix qui ont prôné le fait que Lucas Hernandez redevienne défenseur central. Ça peut être un sérieux, et ce sera son poste a priori au Bayern cette saison, donc ça peut être plus qu'un sérieux concurrent pour Kimpembe, parce que je pense que Hernandez c'est quand même un joueur qui est encore supérieur.
Ouais.
Bon, après il faudrait trouver un arrière-gauche pour l'équipe de France, mais ça peut se trouver. Au PSG il aura la concurrence de Sergio Ramos du coup, donc c'est une année un peu charnière pour lui. Il va devoir progr... enfin il va évidemment devoir l'affronter avec le mental qui le caractérise et qui lui a permis de faire une bonne partie de la carrière qu'il a faite jusqu'à présent, mais il va devoir le faire aussi en progressant sur certains de ses points faibles qui ont montré que dans certains matchs clés au PSG en équipe de France pouvait coûter cher à son équipe. Donc voilà, c'est une vraie année importante pour lui.
Ouais, après, enfin, dans le fond, il aura toujours, enfin, il a déjà quand même un statut au PSG bien établi. Il a encore un certain contrat. Et surtout, Ramos arrive à 34 ou 35 ans, 900 matchs dans les jambes, mais on voit déjà que physiquement, ça coince un peu. Donc, il n'est pas non plus. Enfin, je veux dire, c'est pas comme si on avait recruté Alaba, par exemple, tu vois, qui viendrait jouer
Non,
dans
c'est sûr.
l'axe. Voilà. On va dire aujourd'hui. Il est quand même loin d'être à la rue.
Non, mais il est pas condamné. C'est
Non,
une concurrence qui est abordable pour lui, mais c'est une concurrence malgré tout qu'il faut surmonter et
Non.
surmonter par des performances.
Mais
Pas
t'as
les
raison.
performances qu'il fait jusqu'à présent.
Ça doit être une concurrence qui doit lui permettre de devenir meilleur sur les points faibles qu'on a dit, à savoir la régularité, le fait d'être capable de jouer en étant physiquement pas à 100% ou ce genre de choses, quoi. Ça, clairement, ça doit lui servir pour progresser et aller chercher des choses qu'il n'a pas encore, en tout cas. Voilà.
Être plus concentré, même là, il y a une action en deuxième période où un Brestois est lancé en profondeur et finalement il y a un arrêt de Navas avec un tacle un peu désespéré de Kerrer juste avant. Je ne sais pas s'il était hors jeu finalement, mais ça joue à rien et c'est lui qui courait encore hein, sur cette action-là. C'est lui qui était un peu à la traîne pour faire monter la ligne et au final, bon, le hors-jeu est sifflé. Je ne sais pas s'il en était vraiment et peut-être qu'il est sifflé et c'est bien, mais peut-être qu'il est sifflé à juste raison et c'est bien. Mais si c'est pas le cas, c'était encore lui qui était un peu à la traîne, à pas tenir la ligne. Donc c'est voilà, ces petits défauts comme ça peuvent être importants. Et malgré tout, à la fin, ça donne un face-à-face pour un Brestois face à Navas. Donc
Ben,
c'est à 2-1.
Thilo avait fait un tacle exceptionnel. Non, mais je suis d'accord avec toi que ça, effectivement, c'est un peu gênant de le voir être impliqué sur autant d'actions où il est en tort, quoi, tout simplement. Parce que ça reste un joueur qui n'a pas la capacité de Marquinhos entre guillemets, à couvrir des zones. C'est un joueur qui est beaucoup dans le 1 contre 1. Et à partir du moment où tu te retrouves à être une source d'erreur, alors qu'en général, il fait pas, enfin, il apparaît pas trop dans ce genre de truc, dans ce genre de situation, ça devient vite compliqué pour toi, quoi. Donc bon, à suivre, on va dire. On a parlé donc de Diallo, on a parlé de Kimpembe, on a pas mal parlé de Hakimi, de Herrera aussi indirectement pendant le truc, du match de Mbappé aussi. De quel autre joueur vous voulez qu'on parle sur ce Brest PSG qui peut être aussi peut-être un peu dans la continuité des. Oui, Omar?
Peut-être un peu revenir sur Herrera parce qu'on en a
Bah.
parlé brièvement, mais ça, une première période et plutôt même un début de saison qui est à saluer pour ce brave Vendeur, comme dit l'ami Mathieu, notamment dans sa capacité d'avoir des bons choix offensifs. Il y a vraiment deux passes qui sont bien senties, que certains de nos meilleurs milieux ne se seraient pas refusés. Donc je pense qu'il faut les saluer. Il met un très 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 joli but. Clairement
Belle
une belle
volée.
volée comme ça au milieu de la densité qui est dure à réaliser en plus. Donc non, j'ai trouvé que sa première période était intéressante avec ballon dans les 30 derniers mètres. Très discipliné tactiquement, mais ça, c'est pas quelque chose qu'on pourra lui enlever. Et il a su faire certaines corrections qui était plutôt bien senti. Je pense que la débauche physique a fait qu'il s'est totalement éteint sur la seconde période, mais franchement une bonne première période, une très bonne première période de Herrera, et c'est suffisamment rare pour être noté.
Suffisamment rare, c'était dur quand même. Il n'avait pas fait non plus que des mauvais matchs cette saison, non?
Et la fin de non. saison dernière aussi.
Non, mais aussi bon avec et sans ballon, moi j'ai,
tu as raison,
j'ai rarement ouais. vu ça. Hein. Pas, c'est un joueur d'été. Herrera, il est très bon l'été. L'été dernier, à la même période, il était aussi très très bon. Et le mois d'août, lui réussit. Donc,
c'est un peu voilà, la vérité de notre père Gay Herrera, ça, parce que Herrera comme Gay. En général, dès qu'ils arrivent un peu, préparation sérieuse et tout, août-septembre, ils sont plutôt chauds. Il n'y a qu'à voir le début de saison de Gay qui est plutôt impeccable sur les minutes qu'il a eues et le comparer à son très bon début de saison de 2019 où il arrive un peu à bloc pareil avant de toujours, au fil de la saison, se fatiguer et à perdre en influence, en lucidité et en maîtrise technique. Là, pour le coup, t'as les deux un peu comme ça ensemble qui arrivent près au même moment. Ça rend de fier service, en tout cas, parce que dans la mesure où Gay, il est plutôt inspiré avec le ballon, en tout cas juste dans ce qu'il fait, tant qu'il a la fraîcheur et la lucidité. Et Herrera aussi, qui malgré tout est un joueur qui fait ce que le coach lui demande et qui comprend quand même les besoins d'un match. C'est-à-dire que ça m'étonnerait pas que Pochettino lui disent en avant-match ou les jours d'avant, tu dois faire ci, ça, ça, le ballon, tu trouves la profondeur, machin. Et lui, il s'exécute. Alors, parfois, c'est très bien fait. Parfois, forcément, il y a des petites irrégularités techniques qui font qu'il peut pas tout se permettre. Mais tant que le coach, à mon avis, fait cette demande auprès de lui, il s'exécute et ça se passe relativement bien. Alors qu'à mon avis, si tu le laisses un peu trop décider de ce qu'il va faire sur le terrain, il va tout de suite... être beaucoup plus mièvre, avoir moins d'influence et comme lui le dit, il l'avait dit en interview, moi quand je suis sur le terrain, j'essaie de prendre le moins de risques possible pour pas causer de problème à l'équipe. Du coup, ça m'étonnerait pas que le coach et le staff le responsabilisent en ce début de saison et ça se voit. D'accord. Je sais pas ce que vous en pensez.
Non, possible. Bon,
en fait, tous les joueurs ils reçoivent des consignes du coach avant de rentrer sur le terrain, mais c'est vrai que Herrera a des connaissances tactiques. C'est un joueur qui est responsable à ce niveau-là. Est capable d'utiliser et d'occuper plutôt plusieurs rôles importants. On l'avait vu déjà la semaine dernière face à Strasbourg, où il est plus ou moins seul devant la défense avec Dina Mbimbe qui a plus un rôle, plus de liberté, on va dire, pour aller vers l'avant et porter les ballons, etc. Il est plus devant les défenseurs à organiser le jeu. Là, on l'a vu aussi occuper une position un peu plus avancée entre les lignes, aussi une position pour fermer le couloir côté droit dans un 4-4 de à plat. Là, on l'a vu, d'ailleurs, d'un milieu en losange. Parfois venir à la base du jeu, former un double pivot avec Gay, parfois se mettre un peu plus haut, parfois venir aider aussi Hakimi sur le côté. Non, je pense que c'est un joueur qui marque des points en ce début de saison. Peut-être l'un de ceux qu'on mettait sur la liste des transferts de façon obligatoire en début de saison en disant oui, il faut
absolument. Cher. Non, mais c'est vrai, il coûte cher, on peut pas le nier.
Non, il coûte très cher, c'est vrai. Mais on se disait, même sportivement, même sans rentrer dans les questions de coûts, de salaire, etc. On se disait que sportivement, ben, son apport n'était pas justifié, pas le fait de le garder dans l'effectif. Il y avait d'autres joueurs qui avaient des spécificités, Paredes pour mener le jeu, Gay dans la récupération de volume, Danilo pour le côté tour devant la défense, jeu aérien, etc. Herrera, tu ne voyais peut-être pas forcément l'apport ou l'ajout qu'il avait dans l'effectif. Et tu pouvais te dire que si jamais tu récupérais une offre et t'arrivais à le chasser, ben, ce serait bienvenu et on pourrait prendre un autre milieu comme ça. Et lui, pour le coup, il a peut-être gagné des points à ce niveau-là en montrant une vraie utilité et une vraie connaissance et connexion dans ce qu'il peut apporter sur le terrain, sur le plan tactique. Alors qu'à l'inverse, tu prends un joueur comme Danilo, il n'a pas joué le dernier match face à Strasbourg. Il était remplaçant et c'était Dina Mbimbe qui l'a joué. Il a joué 0 minute face à Brest ce week-end. T'as plutôt l'impression que c'est lui qui part de le plus loin dans la hiérarchie des milieux actuellement. Et si tu dois recruter un nouveau milieu de terrain d'ici la fin du mercato, c'est peut-être lui qui sera poussé dehors et voire sorti des listes UEFA. Alors que ce n'était pas forcément la tendance au début de l'été. Comme quoi, c'est du football du mois d'août, mais malgré tout, c'est des matchs qui peuvent compter, qui comptent dans les dynamiques et dans les changements de hiérarchie aussi. Donc,
Bah, comme
pas
tu
non plus
dis.
complètement anodin de se montrer son meilleur joueur dans ces matchs-là, même s'il ne compte pas forcément de façon décisive pour le reste de la saison.
Ouais, et puis surtout, comme tu dis, le football du mois d'août, c'est aussi là où les ajustements d'effectifs se font, hein. Il y a combien de fois on a vu des mecs partir au mois d'août de façon un peu stupide, enfin un peu précipitée plutôt, et d'autres qui étaient annoncés 3 mois avant sur le départ qui sont restés, qui ont fait leur place. Aujourd'hui, ce que tu décris par exemple, c'est que bah, l'autre, enfin, accrochez-vous bien avec la phrase, mais notre défenseur central le plus fiable du mois d'août, c'est Kerrer, alors que c'était probablement le premier à vendre il y a encore peu. On a aussi Danilo qui a été, comme tu dis, rétrogradé assez loin dans la hiérarchie, qui est probablement actuellement le milieu de terrain qui doit jouer, qui doit se battre pour être le 7e ou le 8e avec
Mais il peut se
Rafinha.
retrouver hors du groupe dès la semaine prochaine. Hein,
Ouais,
donc...
voilà, et qui va peut-être se retrouver en dehors du groupe avec Rafinha, et qui en plus a un agent qui est capable de faire des miracles, faut quand même pas l'oublier. Et t'as Herrera qui, au contraire, est en train de gratter un peu de la place, du temps de jeu, en étant capable de jouer dans plein de postes. Parce que, un truc tout bête, mais Danilo, l'année dernière, on le considérait en fin de saison comme le quatrième défenseur central. Aujourd'hui, si tu prends la hiérarchie des défenseurs centraux, bah, Kerrer est forcément devant lui, puisqu'il fait un bon début de saison. Tu prends la hiérarchie des milieux, Herrera est devant lui. Immédiatement, tu fais des listes, tac, 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 tu descends dans la liste, tu te rends compte que c'est un joueur qui, aujourd'hui, est en difficulté par rapport à sa place dans l'effectif. Et c'est pas que par exemple je préfère Danilo Herrera pour diverses raisons, mais aujourd'hui tu es obligé de considérer, en regardant les temps de jeu, en regardant les choix de Pochettino, que Herrera est plus important que Danilo dans l'effectif. Parce que Danilo, c'est deux grandes qualités. Le jeu de tête et la capacité à jouer, enfin le jeu de tête, la lecture défensive en général, et on peut rajouter sa capacité à jouer en défense centrale, aujourd'hui, ne lui assure pas grand-chose, visiblement, dans la tête de Pochettino, en tout cas, quoi. Donc, à voir, mais effectivement, cette vérité du mois d'août pourrait peut-être coûter cher à certains sur du moyen terme ou même tout simplement d'ici à la fin du mercato estival, quoi. Allez, ça peut aller vite, hein, dans les transferts, hein. Personne n'allait venir, comme il s'appelle, l'an dernier. Il peut repartir de la même façon, hein, ce bon Danilo, mais bon, on va voir. Simon, Mathieu, Omar, on est d'accord, on a fait le tour sur Herrera, même si j'ai un peu dévié sur Danilo et tout ça. Est-ce que vous, de qui vous,
Absolument.
oui, vous voulez parler d'un autre joueur? Non? Ou on estime qu'on a fait le tour?
Le dernier match de Mbappé, je sais pas.
Ah non, bah non, il jouera à Brest au moins, je pense. À Reims, non? Quand même. Je sais pas, tu veux dire quoi du match de
Non, non, je
Mbappé?
sais pas. Non, c'était un bon Mbappé une nouvelle fois. Très très mobile, qui s'est beaucoup proposé, qui a été encore une fois là, une source de danger, de déséquilibre très importante pour l'équipe. Je disais le dernier match en espérant que ça ne le soit pas. Parce que malgré tout, il prouve semaine après semaine que même s'il fait une erreur sur le but du 2-1 de Brest, qu'il est encore fondamental pour cette équipe. Et même avec les arrivées de Messi, et le retour de Neymar, tu te dis que tu as encore besoin de lui pour les changements de rythme, pour la capacité qu'il a à déclencher et à vraiment créer la peur dans l'adversaire, chez l'adversaire. Donc. Non, pour toutes ces raisons, je trouve que c'est un très bon retour une nouvelle fois de Mbappé. Et voilà, on espère que c'est encore annonciateur d'une bonne dernière saison, d'une très bonne dernière saison au PSG.
Moi, je vais plus loin que ça. C'est que quand je vois le match après, enfin le match contre Strasbourg, j'ai pas du tout envie de découvrir le PSG sans Mbappé. Je vous le dis tout de suite. Hein. Je sais que le recrutement de cette saison, il a pu faire rêver certains parce qu'il y a des noms. Moi, je fais pas partie de ceux qui rêvent particulièrement devant. Hein, je le dis honnêtement. Mais la vie sans Mbappé au PSG, j'ai pas du tout envie de la découvrir. Mais alors pas du tout. Et pourtant, ce week-end, il fait pas un match exceptionnel. Mais si vous regardez la première mi-temps, sur toutes les occasions ou presque, c'est Mbappé qui est impliqué à un moment. Soit il accélère, soit il fait un appel, soit il crée quelque chose, mais il est de toutes les occasions de la première mi-temps. Après la deuxième mi-temps, il se fait un peu plus bousculer, il a aussi un mauvais geste sur, je crois que c'est sur Onora d'ailleurs, même si bon, lui au moins, il a fait quelque chose pour l'arrêter. Mais non, la capacité qu'il a à générer du danger, des occasions, de la création, de la vitesse, des buts, c'est quelque chose. On n'en parle pas assez, mais c'est vraiment, vraiment exceptionnel. Et j'ai du mal à imaginer cette équipe sans lui, en fait. Il apporte tellement de choses que les autres ne font pas.
Il n'est pas remplaçable. On
Ah
peut
non,
pas dire que
mais.
Messi remplacerait Mbappé offensivement.
Ah non, tu peux pas dire.
Aujourd'hui, Messi a besoin d'un Mbappé devant lui. Hein. Il faut dire les choses.
Oui, et puis surtout, le PSG a quand même pas un jeu. On en a parlé tout à l'heure, la vitesse de transmission, tout ça, mais Mbappé, il apporte de la vitesse, quoi. Et de la vitesse, cette équipe, elle en a pas énormément. Hein. C'est parce que c'est pas le Neymar de 29 ans, dans l'état qu'il est, qui t'apporte beaucoup de vitesse. Messi est un joueur qui, quand même, en a 34. Je trouve qu'on. Icardi, bon, bah, s'il courait vite, ça se saurait. Hein. Et il a d'autres qualités.
Ah, et t'as perdu Kim, t'as plus Kim non plus pour.
T'as plus Moïse devant qui va t'apporter. Bon, peut-être que tu auras un autre joueur qui va arriver, mais le PSG a besoin de vitesse et de créer des choses, d'appel, de profondeur. Et il t'apporte tout ça et tu l'as pas, franchement. C'est beau d'aligner des noms, des profils, tout ça, mais tu vas avoir des manques, quoi.
On lancera la propagande Kalimundo titulaire, t'inquiète pas.
Ouais, enfin voilà, non mais il est gentil.
À Lens peut-être, mais pas au PSG. Hein.
Voilà quoi.
Il n'était pas titulaire à Lens.
Non mais voilà, par exemple tout à l'heure, RMC a sorti le nom de Richarlison pour remplacer Mbappé. J'aime beaucoup Richarlison, hein. Je le vois jouer en sélection depuis des années et je trouve que c'est vraiment un excellent joueur. Mais il ne va pas t'apporter 50% de ce que t'apporte Mbappé dans tous les compartiments du jeu. Hein. Et non, je ne suis pas enrhumé, je l'ai été pendant les vacances, c'est bon, c'est passé. Mais voilà, non, vraiment, j'avoue que l'idée de voir Mbappé partir fin août me terrifie complètement. Et chaque match me conforte dans l'idée qu'il ne faut absolument pas qu'il parte et qu'il faut absolument qu'on trouve une solution pour garder quelques années de plus le temps qu'on s'arrange, qu'on fasse quelque chose. Mais le voir partir comme ça fin août, quand je vois les profils de l'effectif, c'est.
Non, je serais plusieurs pas en arrière, hein, c'est évident. Au moins, tu te laisses une année pour vraiment réfléchir à comment tu vas faire pour préparer sa succession. Mais là, en l'état, si tu retires Mbappé à cette équipe, je pense que tu gardes une équipe plus faible que celle de l'an dernier, malgré les arrivées que tu as pu faire aux autres postes.
Parce que
Mbappé. Bah, toutes les différences qu'il a pu faire l'an dernier, il va les refaire cette année. Donc, si tu le retires à cette équipe, je pense pas que ce soit un retrait dont tu puisses te dire que tu l'as compensé plus ou moins en renforçant d'autres postes ou même avec Messi offensivement. Et je pense que ça mesure pas forcément ce qu'apporte Mbappé à cette équipe, la dimension qu'a pris le joueur, mais surtout ce qu'il apporte de différent à cette équipe, comme tu l'as bien mentionné, Philo. Et je pense qu'on passe un peu trop sous silence. On est peut-être parfois un peu trop pris par l'amertume envers sa non-prolongation. C'est ça.
Non, mais faut
on
vraiment.
On perd peut-être un peu la raison sur les qualités et surtout les différences que fait ce joueur sur ce maillot.
Je comprends le souci contractuel, enfin l'amertume liée à sa situation contractuelle, le fait qu'il pourrait partir libre et tout, parce que bah, voilà, c'est un truc qui nous est déjà arrivé. Ça ferait. Voilà, on va dire les mots, ça ferait chier qu'il parte libre, clairement, pour les finances du club, pour plein de trucs et tout. Mais il ne faut pas mettre de côté l'apport sportif qu'il a, parce que son apport sportif, je ne sais pas si on se rend compte de tout ce qu'il fait à tous les matchs quand même. Et enfin, il joue tout le temps déjà, il n'est pas beaucoup blessé, je touche du bois pour que ça continue, je peux vous dire, je serre même du bois comme tant que je peux, mais il faut bien se rendre compte que ce n'est pas un joueur que tu remplaces comme ça à la fin août, enfin, ce n'est pas un quatrième arrière central que tu vas chercher pour compléter un effectif quoi, quand même. Donc bon, j'avoue que quand j'ai vu tout à l'heure le petit article de RMC, oh le PSG, il se prépare peut-être. J'étais, ah non, faut pas qu'il se prépare à ça. Non, non, faut l'enfermer s'il faut, mais il faut pas qu'il parte le monsieur. Quoi. Enfin bref. Et on dit ça après un Brest PSG où je trouve que ça a été son moins bon match de la saison jusque-là. Donc, voilà. Omar, tu veux rajouter un petit truc sur Mbappé ou pas?
Si tu m'y invites, je vais pas refuser, mais bien sûr, je souscris à tout ce que vous avez dit. C'est un joueur absolument, absolument irremplaçable et c'est pas aussi simple de remplacer Mbappé en disant on va prendre Haaland ou je ne sais quel autre attaquant qui aurait plus ou moins les mêmes chiffres que lui, parce que Mbappé il est pas qu'impactant au terme sur le marquoir comme disent les Belges, c'est sa capacité à être un accélérateur.
On va aller à Bruges ce week-end.
Non, c'est sa capacité.
Ah, tu regardes les conférences de Philippe Clément, peut-être, c'est pour ça.
Tous les samedis. C'est sa capacité vraiment à être un joueur total, quoi. Tu prends la première mi-temps à Brest, il est hyper impliqué à la création du jeu, par exemple. Il est à l'initiation et à la conclusion des actions. Et avec sa vitesse, sa capacité à avoir les bons gestes, c'est un joueur totalement unique. C'est notre meilleur buteur des trois dernières saisons. Enfin, rien que ça. Tous ceux qui disent, c'est bon, on lui signe son chèque et il se casse et tant pis, c'est un ingrat. Enfin, son impact sur l'équipe, il est monumental et il est allé crescendo d'année en année. Donc, si, et comme ça semble être le cas, le garçon est dans une progression graduelle, asseyez-vous, il va mettre 60 buts cette année, en fait. C'est ce qui va se passer. Et possiblement, il va être décisif sur trois quarts des buts qu'on va inscrire dans une équipe qui a des talents offensifs que j'ai pas besoin de nommer et qu'on connaît tous. Donc, non, moi, je suis comme toi. J'espère que on va avoir la chance de pouvoir faire la saison avec lui parce que sans lui, ça peut pas être pareil. C'est clair et net.
Même dans une équipe, même tactiquement, dans une équipe qui va avoir du mal à être une équipe de pressing, donc il va se retrouver à avoir des. Parce que bon, quand t'as Messi, Neymar et tous les autres, c'est pas. Tu vas difficilement récupérer les ballons au physique pour une pression très intense. Il va sans doute voir une équipe, du moins dans les grands rendez-vous en Ligue des Champions, qui va se recroqueviller plus ou moins proche de son but et essayer de défendre à ce niveau-là. T'as forcément besoin d'une menace en transition et avec un degré d'autosuffisance élevé, et là, qui mieux que Mbappé? C'est, pour moi, c'est un joueur vital, hein, pour cette équipe. Vital. C'est-à-dire que tu retires Mbappé, le PSG est plus compétitif pour gagner avec des champions, pour moi. C'est aussi simple que ça.
Ah
Donc,
oui. Non,
c'est.
mais tu vas loin, mais quelque part, je
Non,
te
mais moi,
comprends.
je le dis complètement. Je suis complètement terrifié par le countdown de Pedrerol tous les jours. J'espère que. J'attends que le mercato se termine le plus vite possible. Et à vrai dire, peu importe qu'on recrute un latéral gauche ou un milieu en plus. Mais non, non, c'est plus sérieusement, non, c'est juste pour insister une nouvelle fois sur l'importance de Mbappé. Et lui, pour le coup, préparation ou pas, fatigue ou pas, il arrive à être décisif et important d'emblée. Donc, c'est à chaque fois notable et remarquable chez lui.
Ouais, bon, écoutez. Et on nous demande est-ce que 1 an de Mbappé, ça vaut 150 millions d'euros? Je sais pas, mais comme le dit Mathieu, si tu perds ton. Enfin, peut-être pas ton plus gros atout pour gagner la Ligue des Champions, mais en tout cas un des plus importants, quel est ton objectif? Est-ce que tu vises l'argent? Est-ce que tu vises la gloire sportive? C'est toujours pareil. Après, c'est. Bon. On verra dans les prochains jours. Pour l'instant, le PSG avait toujours tenu le. Comment dire? Le cap est dire qu'il ne partira pas cet été. Après, quand on dit sur live, vivement le 1er septembre. Ah, oui, forcément, comme tous les ans, mais bon. Et s'il a déjà décidé de partir, bah, on verra ce qu'on fait. Après, il faut encore qu'une offre intéressante arrive, mais pour l'instant, visiblement, ce n'est pas le cas. Donc, il faudra voir. Il faut.
L'offre massive, excuse-moi Philo, l'offre massive qui pourrait arriver, c'est-à-dire celle qui pourrait atteindre 170 millions d'euros, c'est-à-dire le Real, hein, le plus grand club de l'histoire de ce jeu, ils vont être capables de faire la plus grande offre financière de leur histoire juste pour pas louper Mbappé libre 4 mois plus tard. Enfin, si on met l'échelle du degré de risque. La pertinence financière par rapport aux accomplissements sportifs qu'ils espèrent de ce jeune, c'est se dire, enfin, c'est même plus la haute estime qu'ils ont, et ils en ont vu des joueurs de grande qualité, mais se
Ils
dire
connaissent un peu, quoi.
qu'ils seraient capables de faire un truc aussi fou dans la période dans laquelle on est pour prendre Mbappé, ça devrait tous. Nous faire prendre conscience, bah, qui d'autre mieux que nous pour s'en rendre compte, hein, on le voit tous les samedis depuis 5 ans, que non, c'est vraiment l'enjeu du club, de la ville, du pays, d'arriver à le convaincre. Et puis s'il veut pas, merci pour tout et bon courage à Chamartine, quoi.
Oui, bon, on n'espère pas cette fin, en tout cas pas tout de suite. Bon, vous voulez rajouter quelque chose sur les joueurs, le Brest PSG, ou on va s'arrêter là tranquillement pour ce podcast de reprise de la Ligue 1 où on a un peu parlé de tout. Mathieu, Omar, Simon, visiblement.
Ça va, tout va bien.
Non,
Non, non,
ça, tout va bien. La semaine prochaine, c'est le lundi avant la fin du mercato en
Ah bah
plus.
oui, la semaine prochaine, on a le
Oh,
podcast Feu d'artifice, Reims PSG, tirage Ligue des Champions, fin de
C'est
mercato.
plus pareil sans apéro quand même.
Tic-tac,
Ah ça.
tic-tac.
Tic-tac, tic-tac, comme dirait notre ami, c'est pas trop notre pote, Monsieur Pedrerol. Mais donc voilà, bon. Sur ce, on va vous souhaiter une bonne soirée. Point mercato sur les jeunes, vite fait. Allez, vraiment parce que c'est les jeunes. Kalimuendo, France Bleu Nord, donc il a un peu côtoyé l'an dernier du côté de Lens, a dit que Kalimuendo réfléchissait à partir pour trouver du temps de jeu un peu ailleurs. On verra ce que ça va donner. Il y a beaucoup, beaucoup de clubs français et étrangers qui le veulent, notamment des clubs de milieu de tableau, voire plus. Est-ce que Lille est encore un club de milieu de tableau? Est-ce que de nouveau, ou pas encore? Mais bref, Lille, Montpellier, Saint-Étienne notamment. Je ne serais pas surpris si on arrive à faire revenir Keane, qu'on libère Kalimuendo. Attention à la blessure d'Icardi quand même, parce qu'on n'a quand même plus beaucoup d'attaquants et on ne peut pas trop se permettre non plus d'en perdre trop.
Question sur les listes, hein, quand même, si on fait
Oui, aussi. Attention aux listes
Robertine.
UEFA. Comme tu as totalement raison d'en parler. Ensuite, dans les départs, normalement, Fadiga, ça devrait partir, en théorie, puisqu'il est, il est pas du tout retenu, tout ça. On a bah, Pembélé est parti en prêt à Bordeaux, avec une option d'achat que je trouve encore, bref. J'espère qu'on a une contre-option, parce que sinon, je pense que je vais pleurer à la fin de la saison dans les bras d'Omar.
Crois que ça a été précisé, hein, dans le communiqué, il me
Bon,
semble.
j'avoue que j'ai pas... J'étais en vacances, c'est bon, je peux pas tout faire. Pour revenir sur le truc un peu plus
Et dit ma
sérieux...
MIB aussi.
Dina et Bimbe, ça parle d'un départ, mais on ne sait pas trop. Pochettino l'apprécie, on l'a vu, hein. Donc on va voir. Xavi Simons, normalement, ça reste, hein, ça part pas en prêt. Puis je vois pas aujourd'hui quel
Il est en
club.
fin de la fin de son contrat, surtout.
Ouais, voilà, en plus, et je vois pas quel club va lui proposer. Soit tu, ou alors il partira en transfert, mais ça sortira un peu de nulle part. Le jeune Michu, on a vu qu'il a pas trop aimé ce qui s'est passé avec ce qui a été proposé au moment de signer la prolongation et ce qui finalement s'est passé, mais bon. Il n'y a pas trop non plus. Peut-être qu'il partira en prêt, mais je vois plus partir en prêt, à vrai dire, en janvier que maintenant. Effectivement, c'est un peu dommage pour lui qu'il fasse plus séance avec les pros, parce qu'il avait quand même bah, les deux, Simon sur lui, ont quand même montré plutôt des bonnes choses. Garbi, ça parle toujours d'un contrat pro, mais donc il ne va pas partir maintenant. Et Garbi, lui, est resté dans le groupe, ce qui veut dire qu'il plaît quand même beaucoup. C'est pas rien quand les autres sont relégués et pas toi, quand même. Il y avait qui encore en jeune qui pourrait partir? Je pense on a un peu fait le tour là.
Non,
Peut-être.
les autres sont partis. Il y en a Gérard.
Ouais, Kenny est parti à
Ouais.
Bastia. J'ai pas vu ce qu'il avait fait la deuxième partie de deuxième, enfin les journées suivantes de Ligue 2. Je sais que la première journée, il avait fait une bonne entrée, mais il avait été très mauvais devant le but. Et les Bastia lui en voulaient déjà. Bon, ça, l'entraîneur l'avait longuement défendu devant la presse, donc c'est plutôt une bonne chose. On parle des sous de la vente de Yacine Adli à Bordeaux. Ouais, alors attention, est-ce que Adli va être vendu par Bordeaux? On touche 40% de la plus-value, sachant qu'on l'a vendu 5 millions et demi en décembre 2018 ou 19, je sais plus. Donc faudra calculer un peu, mais attention parce que Bordeaux vient de vendre Bazic à la Lazio pour 7 millions plus 1 million de bonus. Est-ce que Bordeaux va encore vendre un joueur comme Adli? Faudra voir les offres, faudra faire sortir la calculette aussi. Mais on peut gagner un peu d'argent avec ça. Normalement, il faudra suivre aussi la vente éventuelle
Edouard.
de Hudson-Édouard, effectivement, avec le Celtic, puisque ça reparle de. Comment ça s'appelle? C'était Brighton ou c'était un autre club anglais? Je crois que c'était Brighton qui le voulait à une époque. J'ai pas suivi dernièrement, je vais pas vous mentir. Faudra suivre aussi dans le sens peut-être des retours Moise Kean, Everton. Il n'a pas joué dernièrement, mais c'est parce qu'il était en isolement. Je crois qu'il était cas contact Covid. Donc en Angleterre, à ce moment-là, c'était encore isolement pendant 5 jours. Et ensuite, je crois qu'on a un peu fait le tour du mercato. Il y a toujours les rumeurs Camavinga, tout ça. Mais Camavinga a l'air décidé à venir au PSG, ou en tout cas à quitter Rennes. On va voir comment ça se finit, on ne sait pas encore. Faudra
Vendre
honnêtement.
Rafinha.
Oui, il y a Rafinha à vendre, mais on ne sait pas trop où il pourrait
Faut attendre les
partir.
jours du Condor.
Attention au dernier jour du Condor, effectivement, comme le dit Mathieu. Rafinha, ça avait parlé de l'Espagnol Barcelone, je n'ai pas du tout suivi leur recrutement, je ne sais pas s'ils cherchent encore un joueur. Sarabia, il y a quand même. Dans l'article que je vous ai fait aujourd'hui, il y a quand même la presse andalouse qui a donné pas mal de détails. Donc Séville déjà a négocié avec le PSG pour un éventuel retour. Et le PSG aurait reçu trois offres plus intéressantes que celle de Séville pour faire partir Sarabia. Alors est-ce que c'est Villarreal, ce genre de club, on ne sait pas. Je ne sais pas exactement, j'avoue, de ne pas comprendre qui ça peut être. Donc on va voir. Est-ce que c'est aussi un gros mytho du PSG pour faire
Ouais,
crasher Séville? C'est
possible.
possible également, hein, n'ayons pas peur. À voir. Mais en tout cas, le mercato, pour l'instant, ça. Le cas Pogba semble aujourd'hui à oublier, puisque plusieurs sources ont évoqué le fait qu'il devrait. United va prendre le risque de commencer la saison avec lui dans l'effectif et tenter de le convaincre de finir, enfin de prolonger. Bon début de saison de Pogba, déjà 5 passes décisives en 2 matchs, même si United n'a pas gagné à Southampton ce week-end. Et ensuite, qu'est-ce qu'il y avait d'autre? Bah là, les dossiers de la fin de mercato. Sarabia au Milan AC, c'était la Gazzetta qu'on a parlé ce matin, qui disait qu'en gros, il faisait partie de Milan, cherche des joueurs capables de jouer aussi bien ailier qu'attaquant de soutien, donc 7 ou 10, comme ils disent. Et Sarabia a le profil comme Corona du FC Porto. À suivre. Mais le Milan était déjà un peu effrayé par les 4 millions d'euros nets par an que touche Sarabia, alors que c'est pourtant un des petits salaires du PSG, pour vous donner une idée. Et
Ouais,
oui.
mais le Milan est capable de les donner, c'est ce que touchait Çalhanoğlu par exemple. Donc,
Voilà. À suivre.
surtout que Sarabia pourrait bénéficier du régime fiscal.
Des impatriés.
Ouais, exactement, en Italie pour les joueurs venant de l'étranger.
Et ouais, autre pause. Est-ce que Sarabia a envie d'aller en Italie? Je suis pas
C'est
très
une bonne
certain non
question.
plus. Voilà.
Et
Moi,
le Milan
des.
surtout proposerait un prêt a priori, donc.
Voilà. Eh bien,
Mais.
je sais que quand on parlait de Sarabia dans l'échange avec, comment il s'appelle,
Coréa.
avec Correa, moi, des échos que j'avais eus, Sarabia n'était pas du tout intéressé à l'idée d'aller à la Lazio, voire en Italie en général. Donc, faudra suivre. Voilà. Il y a pas mal de mouvements à la marge qui risquent d'arriver. Et attention aussi aux mouvements que personne n'a vu venir et qui se font comme ça, attaque, en un claquement de doigts. Je pense pas
Si tu
que.
dois faire un arrière-gauche, ça sera forcément un nom que tu n'as pas entendu ou un joueur que. Ouais. Parce que ça restera comme on a entendu que Théo Hernandez, vraiment comme vraie rumeur, et que ça ne sera pas lui si tu dois faire un joueur à gauche.
À voir. Non mais le coup de l'arrière-gauche, honnêtement, avec le comment ça s'appelle, l'état de santé de Bernat, c'est peut-être un poste à surveiller plus qu'on l'imagine. J'ai vu qu'en Angleterre, où Kurzawa cherchait une porte de sortie, c'est Brighton, je crois, qui va faire signer Cucurella de Getafe
Il
plutôt
joue plus avancé que voilà. Il joue au milieu gauche
bah,
à Tafet.
visiblement là, ils le
Ils
prennent
le
pour
prennent
jouer
pour être
arrière-gauche.
latéral.
Ouais,
Ok.
donc à voir. Et puis on verra aussi peut-être des prêts en fin de mercato. Rico, effectivement, dans le sens des départs, on en a beaucoup parlé, mais Sergio est accroché au PSG, visiblement, et n'a pas l'air décidé à partir. Donc voilà, ça fait partie des joueurs où il va falloir trouver une solution. Le PSG a déjà trouvé des solutions pour Areola, Bulka, Innocent. Il m'en manque encore un ou deux, je crois, chez les gardiens. Enfin, on en a tellement des gardiens que bon, voilà. À suivre. Effectivement, on me dit que comme Danilo Pereira l'an dernier, ça s'était fait au dernier moment. Oui, il est possible que le 30-31, ça parte un peu dans tous les sens, avec beaucoup de prêts notamment, puisque les clubs n'ont pas énormément d'argent. Et des fois, le prêt est une bonne solution, quitte à faire des prêts payants notamment. Et West Ham pour Kurzawa, à suivre. J'ai pas suivi les derniers mouvements des Hammers, donc faut regarder. Mais c'est une bonne équipe, donc je vois pas pourquoi ils s'intéresseraient trop à Lévin Kurzawa, pour être tout à fait honnête. À suivre. Voilà. Allez, sur ce, on va vous souhaiter une bonne soirée. On espère que ce podcast très orienté Brest PSG vous a plu. Qu'on reviendra normalement lundi prochain, donc pour un énorme podcast Ligue des Champions, Reims PSG. On aura quand même en théorie les premiers pas de Léo Messi sous les couleurs du PSG. Donc faut pas rater ça. C'est quand même pas n'importe quoi, Lionel Messi sous un second maillot de club après celui des ruinés de Catalogne. Donc voilà. Allez. Bonne soirée à tous, encore merci pour votre fidélité, tous vos messages, et donc à lundi prochain en podcast et sur le site d'ici là. Bonne soirée tout le monde, ciao ciao!
Ciao.
Ciao, la bise des amis.
Bonne soirée à tous, bisous!
Voilà, Simon vous fait des gros bisous, vous pouvez partir le cœur léger, à bientôt. Ah oui, et n'oubliez pas les likes s'il vous plaît comme, sur le podcast, le Tipeee est toujours d'actualité aussi, et Rouge et Bleu est toujours en vente, c'était le livre sur les 50 ans qu'on avait coécrit. Allez, à bientôt, bonne soirée à tous. Ciao,
La cloche sur YouTube et tout. Ah, ça y
ciao.
est.
Mom deserves the best, and there's no better place to shop for Mother's Day than Whole Foods Market. They're your destination for unbeatable savings, from premium gifts to show-stopping flowers and irresistible desserts. Start by saving 33% with Prime on all body care and candles. Then get a 15-stem bunch of tulips for just $9.99 each with Prime. Round out Mom's menu with festive rosé, irresistible berry chantilly cake, and more special treats. Come celebrate Mother's Day at Whole Foods Market.